Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tu peux te rattraper.
Défaite en J1 sur une
équipe exactement.
Qui s'est recroquevillée.
Pour le coup, tu mets dans mon moulin.
Maintenant, d'un point de vue aussi mercato, je pense qu'aujourd'hui, en plus de ça, je ne sais pas quel joueur sera en partance de départ.
J'aime bien quand les gens sont à dos contre moi, ça me permet de travailler encore mieux et de leur montrer qui je suis.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Génération After, RMC, 20h-22h, comme tous les soirs. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast, toi qui nous regarde sur After Foot TV ou sur la chaîne YouTube de l'After, bien sûr. Le chat est ouvert, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, autour de la table, Maxime Chano est là. Salut Max.
Salut à tous.
On se lâche plus Max. Elton Mokolo est là également ce soir. Salut Elton.
Salut Max. Salut Nico. Salut à tous.
Et vous avez entendu dans le générique une voix que certains n'ont peut-être pas identifiée, celle de Younes Belhanda, qui nous rejoint dans quelques minutes vers 20h30 pour ce Génération After exceptionnel. Bien sûr, avec lui, on parlera du Maroc.
Les Lions.
Les Lions de l'Atlas.
Un peu de football, oui.
Ce sera à partir de 21h30. Est-ce que les Marocains, vous les imaginez refaire un dernier carré Coupe du Monde, refaire une demi-finale? Ça, on va en débattre. Toi, tu dis non plutôt, toi.
Je pense pas. Je leur souhaite, attention.
La cote est élevée, c'est sûr, quoi, pour une nouvelle demi-finale. Mais.
Sélectionneur, non, je pense qu'il y a.
On va en parler.
Compliqué.
Moi, je te donne ma réponse à 21h30.
Ok, très bien. Il est pour. J'ai hâte d'avoir celle de Younes également, qui n'était pas tendre avec le prédécesseur de Mohamed Wahbi, en l'occurrence, Mohamed Regragui. D'abord, la Ligue 1, bien sûr, beaucoup d'actu aujourd'hui, à moins d'une semaine, du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Pierre Sage qui te lance, c'est officiel depuis hier soir, il a annoncé à ses dirigeants, le club perd-il très gros, va-t-il résister à son départ? Et puis les infos, succession à Lens. Bruno Genesio arrive à Marseille, c'est une information qui RMC Sport confirme, ça y est, même si on s'en doutait, lui le Lyonnais, peut-il incarner l'OM? Lui, l'homme qui parfois a fléchi devant la pression à Rennes, à Lille, à Lyon surtout, peut-il incarner l'Olympique de Marseille, là aussi, on va en débattre. La vie d'Elton ce soir sur les Bleus, équipe de France, toujours en prépa. Désiré Doué doit être quatrième offensif en équipe de France à la Coupe du Monde, là aussi, on pourra en débattre. Et puis, on fera un gros premier mercato Lyon. Mathieu Louis-Jean, le DS de l'OL, était dans Rotten sans flamme. Il a parlé de l'avenir de Paulo Fonseca. Hendrick, est-ce possible qu'il revienne à Lyon? L'avenir également de Corentin Tolisso. Tous ces dossiers-là dans Génération After. Et puis voilà, vous connaissez le programme, le 32-16. Vous nous appelez, les commentaires YouTube, WhatsApp, 0612-424-424 pour envoyer vos messages. C'est gratuit, allez-y, envoyez en masse. C'est parti pour Génération After. Et notez bien ce rendez-vous. Dimanche, l'After sera au Sénégal, à Dakar, pour une émission consacrée bien sûr au football sénégalais, surtout à 9 jours du match France-Sénégal, 18h-20h, heure locale. Donc si vous nous écoutez depuis Dakar, depuis Sénégal, n'hésitez pas, c'est à l'Institut français de Dakar, ce sera à 20h, heure française, jusqu'à 22h, l'émission, hein, avec entrée libre et gratuite. Souleymane Diawara sera là, il fait le déplacement, de nombreux acteurs du foot seront là également. Elton sera là,
eh oui,
à Dakar.
Je serai à Dakar.
T'as quelle chance.
C'est quoi,
quelle chance.
Comment tu qualifie tes voisins sénégalais, ses concurrents,
c'est
ennemis, c'est rival.
Non, de grands amis.
De grands amis, oui.
Ah oui, alors même si il y a eu le 3-2 au Stade des Martyrs, mais pour autant, oui, ça reste le Sénégal. Par rapport aux émotions, notamment en 2002, moi je l'ai vécu. Le but d'Ilan Mansis en quart de finale et tout, ça a été un déchirement pour moi aussi.
C'est-à-dire la RDC et la France sortie en Coupe du Monde, il reste Sénégal, t'es à fond derrière le Sénégal, toi, dans l'absolu, c'est ça?
Comme en 2002.
Comme en 2002.
Comme en 2002.
D'accord, très bien.
2002, moi
je suis mort en 2002.
2002, j'avais. 2002. Alors, 2002, j'avais 9 ans.
Ah oui, oh, ça va.
9 ans.
Tu sais, c'est une vraie question. Premier souvenir Coupe du Monde. Ta première image, Max, de Coupe du Monde, c'est
98.
L'équipe de France.
On pensait au coup de boule de Zidane. Enfin, en tout cas, le doublé de Zidane.
Toi, tu es 89, toi, c'est ça?
89, mais alors,
89,
je pense plus
ouais, devant, c'est ça.
Je pense plus au tacle contre l'Arabie Saoudite, où est-ce qu'il prend le rouge?
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Comme,
c'est
vraiment une vision.
Là, tu l'as gardé, ça. C'est une image
vision défenseur, ouais.
Non, mais c'est pas ça.
Non, mais ça m'avait rendu vraiment triste.
Oui, c'est d'ailleurs, il s'appuie sur lui, il écrase, quoi.
Oui, c'est violent, quoi.
Il a la jambe d'appui au sol, et puis après, il descend la jambe droite, et il écrase de Saoudien. Toi, c'est quoi, c'est
premier
flash, c'est quoi?
Alors, moi, je l'ai déjà raconté, mais moi, j'étais aux Pays-Bas à cette époque. J'habitais aux Pays-Bas, du côté de Québec, et moi, première.
Ah oui, non,
attention.
On parle beaucoup de Kevin Diaz et des Pays-Bas, mais le vrai ambassadeur des Pays-Bas, c'est Elton.
On habite à Québec, et moi, première image, c'est Pays-Bas, Argentine.
Bergkamp.
Marseille, Vélodrome.
Contrôle,
suspension, l'extérieur du pied, filet opposé.
Après, c'est là que tu vois que le football a quand même évolué, parce que le bloc entre l'attaquant et le défenseur, il y avait 90 mètres. l'autre. Hein,
je peux te dire que Franck Debourg sur sa transversale, il avait beaucoup de temps avant de trouver Bertrand.
Attention à l'esquive. Ouais.
Alors, on va parler bien sûr de la Coupe du Monde au fur et à mesure des jours qui nous rapprochent du coup d'envoi le 11 juin prochain. Ce duel entre le Mexique et l'Afrique du Sud, ce sera bien sûr à vivre en direct, en intégralité depuis le stade sur RMC. D'abord Lens. Pierre Sage a donc décidé de quitter Lens. Il a averti hier soir ses dirigeants. Comme nous le dit l'équipe aujourd'hui, c'est la deadline qui s'était fixée. Il l'a respectée. Il a senti un manque d'ambition de sa direction et c'est également qu'il ne pourra pas faire mieux. On l'avait compris. C'est vérité de départ. Hein. Il est venu en parler ici même. Il a fait plusieurs médias pour dire qu'il doutait, qu'il n'avait pas pris de décision. C'est très mal passé auprès des dirigeants lensois. Cet enchaînement d'interviews dans les médias. On ne sait toujours pas sur quel banc il sera la saison prochaine. Crystal Palace, très certainement.
Ouais, ça prend forme en tout cas.
Qui a érigé sa venue en priorité avec un salaire 3-4 fois supérieur à celui qui touche à Lens. En gros, passer de 100 000 à 300 à 400 000 euros mensuels.
À son âge, ouais.
À 47 ans, c'est pas mal.
Des choses que tu peux pas trop refuser, d'autant plus que Pierre Sage, il a quand même pas une première carrière de footballeur professionnel. Donc là, j'imagine qu'il a pas forcément coffré, à part s'il a gagné en loto sans nous le dire. Mais
non,
t'as cette opportunité qui arrive à cet âge-là, je peux comprendre en tout cas que tu y arrives, quoi.
Directeur du centre de formation de l'OL, il y a à peine 3 ans.
Il devrait être à plus de 15, ça.
Donc voilà, oui.
Non, mais si on spécule, tu vois, juste prix.
Non, mais il fait une bascule.
En 3 ans, tu passes de 15 à 300-400 000, hein. C'est pas mal,
c'est exceptionnel. Et puis encore une fois, t'as le meilleur exemple avec Anthony Iraola, hein,
c'est ça, exactement.
Qui met la pied en première ligue du côté de Bournemouth en provenance du Rayo Vallecano et derrière. Il arrive à Liverpool. Est-ce que ça pourrait pas faire pareil avec Pierre Sage? Bon, à condition, évidemment, qu'il fasse une très belle saison.
Bien sûr. C'est encore un jeune entraîneur. L'âge, hein, il est jeune, hein, 47 ans. Jeune en tant que numéro 1 sur un banc. Mais bon, comme je pense à tous les supporters lensois, qui se disent qu'il avait encore 2 ans de contrat. D'ailleurs, Lens va vouloir négocier son transfert. Hein. Pas question de céder 1 euro à Crystal Palace si Palace le veut absolument. T'es lensois, tu nous appelles au 32-16 pour nous dire comment tu vis ça. Bien sûr, on a déjà évoqué le sujet. On n'est pas naïf, on n'est pas dupe, on se met à la place de Pierre Sage, bien sûr, mais êtes-vous quand même déçu par la tournure que ça prend? Il vous a monté au 7e ciel avec son effectif, 2e de Ligue 1, lutte avec le PSG, la première Coupe de France de l'histoire. Comment vous regardez ça? Comment tu regardes ça, toi, Max? Est-ce que tu comprends sa décision?
Moi, je la comprends. On ne critique jamais des joueurs qui choisissent de quitter un club, quand bien même c'est un club de cœur, parce qu'il y a une super belle opportunité. Alors certains vont te dire Crystal Palace par rapport à Lens, finalement, est-ce que c'est un pas en avant? Oui, c'est un pas en avant. C'est la première ligue. C'est vainqueur de la Conference League, c'est-à-dire que l'année prochaine, ils auront l'opportunité de jouer l'Europa League. Donc quand même l'Europe. Certains te diront, ouais, peut-être que rester à Lens, ça va lui permettre de prendre un petit peu d'expérience en Champions League. Mais finalement, j'essaie de me mettre à sa place. Imaginons. Lens va quand même perdre énormément de joueurs.
C'est prévu, ouais.
Thomasson, Malangsar,
Sangaré, probablement.
Et s'il faut en plus de ça, tu vas perdre Sangaré, tu vas peut-être perdre Gagnou. Enfin voilà, on en a vu hein, des exemples avec des équipes qui font des très belles saisons et l'année d'après, ils font uniquement quelques matchs en Champions League, 8 matchs et au revoir, c'est terminé. Et tu te retrouves dans une situation où tu te dis, mince, il me reste que la Ligue 1, pourquoi je suis resté à Lens? Donc je comprends très bien le départ de Pierre Sage. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je le trouvais tellement juste dans ce projet. Je trouvais vraiment que ça lui collait à la peau. Beaucoup d'humilité, très bon dans la communication.
Ah ouais, c'est lui, il incarne Lens, c'est fou.
Et en fait, voilà, il incarne Lens. Et c'est vrai que la manière de partir un petit peu, alors officiellement, tout va bien, officieusement, on a compris qu'il y avait un petit peu de l'huile sur de friture, ça se dit, huile de friture?
Ouais, de friture sur la ligne, même.
Friture sur la ligne.
Mais c'est bon, exactement. C'est isolé, t'inquiète pas.
Ouais, excusez-moi,
ça va nous faire le mondial.
Je vais revenir en arrière.
C'est déjà monté, dans 2 secondes, on va l'écouter.
Je vois Jimmy qui est en train de sourire à l'écran, là, ça m'ennuie. On peut revenir en arrière ou pas?
Non, t'es en direct.
Là, t'as fait une énorme passe décisive.
Bon, c'est comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, je
vis sur le feu, sur la ligne.
Ouais,
mais j'adore les mix.
Les deux, ouais.
Après, il faut dire que quoi qu'il en soit. C'est un peu de Jean-Claude Van Damme quand même. T'avais passé beaucoup de temps aux États-Unis.
Alors, sache qu'on m'appelait Jean-Claude Van Damme au centre de formation.
Ouais. Ah ouais.
Avant même que tu partes aux States. Ouais. Ah ouais, c'est encore plus problématique ça.
J'ai magnifique. J'ai beaucoup de pompes le matin, c'est pour ça.
Ok, alors vas-y,
je vais quoi qu'il en soit, pour te dire, je trouve ça un petit peu dommage sa sortie parce qu'encore une fois, je l'ai trouvé tellement juste dans sa communication, dans tout ce qu'il a fait cette saison, que je trouve ça me laisse un petit peu, voilà, un petit peu, un petit goût d'inachevé. Je peux comprendre que les Lensois soient frustrés en tout cas.
Elton, t'es quelle école toi? Ceux qui disent, mon Dieu, ça aurait été magnifique l'histoire, une deuxième saison de Ligue des Champions, Pierre Sage, communion, le casque de mineur qu'il a mis en fin de saison, ou alors, non, tu penses carrière, faut qu'il avance.
Après, malheureusement, pour Lens, c'est l'histoire qui se répète, jamais 203. J'ai envie de dire, Franquez est parti du côté de l'OGC Nice, Will Steele est parti l'année dernière du côté de Southampton, et Pierre Sage, avec notamment des performances encore plus importantes, est en partance, parce qu'à un moment donné, l'histoire, c'est quoi? C'est deux entités, Pierre Sage, d'un côté et Lens de l'autre, qui ont été dépassés par un certain succès qui n'était pas forcément prévu. Et aujourd'hui, il y a une aspiration du côté de Pierre Sage, c'est qu'à un moment donné, tu as une opportunité potentiellement dingue d'entrer dans la Ligue Football Manager, c'est-à-dire la Première Ligue. Et l'unité de mesure aujourd'hui pour les entraîneurs, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Première Ligue. Et donc forcément, quand tu es en face de cette opportunité, couplée notamment à la dimension financière qui est extraordinaire, qui est exponentielle par rapport à la Ligue 1, et bah, t'es obligé d'avoir un constat où tu te dis peut-être que mon avenir est davantage
du côté de la Première Ligue. Ça paraît presque irrefusable, effectivement.
Après, ce qui serait intéressant, ça serait quand même... Où est-ce que tu situes finalement l'arrivée de Cahuzac dans cette histoire?
Ça, c'est très intéressant.
Et celle-ci, elle est intéressante. Est-ce que le
J'ai
fait
pas senti ramener... à l'aise, hein, un personnage quand tu étais venu dans l'after, que la question lui a été posée. Quel rôle pour Cahuzac?
Exactement. Alors, est-ce qu'il a été imposé à Pierre Sage? Et donc, c'est peut-être un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire, attends, je sens qu'il y a un petit peu de pression. Il suffit que je me loupe l'année prochaine avec Lens pour que KU se retrouve numéro 1 ou prenne une place un petit peu plus importante au Racing Club de Lens. Ou est-ce qu'au contraire, Pierre Sage, dans sa tête depuis le début, l'arrivée de KU, peu importe. Et dans ce cas-là, je voulais partir.
Lui, il avait répondu est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il sera votre premier adjoint, Cahuzac? Il a fait non, c'est Alioui, Karim Alioui, mon premier adjoint.
On a bien compris que jamais Alioui, imposé. C'est pas Pierre Sage qui avait été le chercher.
Non. Voilà, après, donc, il avait donné son accord quand on lui a posé la question.
D'accord.
Même si Pierre Sage devait déjà à ce moment-là une idée de l'avenir également et qui resterait.
Entre donner son accord et justement proposer le choix d'un potentiel entraîneur adjoint, il y a quand même un delta, il y a une différence.
Dans un instant, je vous donne les infos.
Il y en avait besoin non plus.
Sur les successeurs potentiels, d'abord, il y a beaucoup d'appels au 32-16, sujet épidermique, sujet Sage et Lens. Julien est avec nous. Salut Julien.
Bonsoir.
Bienvenue dans Génération After et sur RMC, Julien, supporter lensois. On en a déjà parlé, mais toi, ton sentiment, c'est quoi là? Ça y est, il s'en va, Pierre Sage.
Mon sentiment, en fait, c'est, j'ai pas forcément envie de parler de Lens ou du désormais Peter Wise. En fait, j'aimerais juste prendre un peu de hauteur par rapport au problème du foot français, parce que à part le PSG, Rennes et le Paris FC, il y a aucun club qui est capable de faire grandir un effectif, de le conserver, de l'améliorer, notamment lorsqu'on va en Coupe d'Europe et où on aurait besoin d'avoir un meilleur effectif plutôt que de se voir affaiblir l'effectif. Et en plus de ça, là, le problème de Lens, c'est qu'en plus de perdre tes joueurs, tu perds ton entraîneur. Je pense que c'est un problème qui est propre au foot français, parce que même des gros clubs comme l'OM ou comme Lyon ou autres ne conservent pas leurs meilleurs joueurs. Et donc, c'est plus un problème structurel. Et si Lens en est victime, je pense que d'autres clubs aussi peuvent être victimes de la Première Ligue.
Lens, deuxième de Ligue 1, mais dixième budget de Ligue 1.
Oui, mais attention,
n'a pas les moyens d'un Monaco, d'un Marseille, qui peut éventuellement lutter pour conserver un entraîneur.
Mais moi, je suis d'accord.
Ou certains joueurs.
Je suis d'accord, et d'ailleurs, moi, je suis atterré, notamment par ce que on risque de constater. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, sur les 10 premiers du championnat de Ligue 1 sur la saison 2025-2026, il y a déjà 6 changements annoncés dans le haut du tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un échec pour le football français, notamment par rapport à une réalité économique, notamment par rapport à des décisions managériales. Et aujourd'hui, on est incapable, en dehors du PSG bien évidemment, d'établir une stabilité pour justement permettre au projet de grandir. Lens est un symptôme de la difficulté dans le football français d'avoir une stabilité. 6 changements d'entraîneur sur 10, c'est trop.
Mais tu n'es pas naïf, tu sais très bien que la France, économiquement parlant, ne peut pas lutter avec la Première Ligue. C'est réglé à partir du moment que tu as l'appel.
C'est même pas que la Première Ligue.
Oui, en règle générale. Je veux dire, aujourd'hui, s'il y a bien un championnat qui souffre actuellement, c'est bien la France. C'est les droits télé, on sait très bien comment que ça se passe actuellement. Écoute, ça me paraît logique qu'aujourd'hui, la France, le championnat de Ligue 1, c'est une vitrine, que ce soit pour les joueurs, les jeunes joueurs, les joueurs qui ont un certain âge, et surtout les entraîneurs, dès que ça fonctionne,
et
derrière,
ça même,
c'est le tremplin.
Et pour moi, je vais même te dire, c'est même un game changer. Parce que on a beaucoup reproché à l'école des entraîneurs français de ne pas pouvoir s'exporter. Mais là, sincèrement, depuis que je suis le football, c'est bien la première fois.
C'est une bonne nouvelle.
Mais pour moi,
c'est une bonne nouvelle.
Non, pour l'école.
De voir nos coachs partir à l'étranger enfin, et notamment en Angleterre, à l'image.
Je pense que c'est différent pour un joueur, parce que derrière, tu peux récupérer avec l'équipe nationale.
Les gars,
partons du principe qu'un joueur qui part à l'étranger, derrière, tu peux le récupérer avec l'équipe nationale. T'as une plus-value sur le joueur qui est parti à l'étranger. Mais l'entraîneur, finalement, qu'est-ce que tu gagnes en tant que français?
Les gars, parce qu'à un moment donné, on le déplorait. On disait pourquoi nos entraîneurs français n'arrivent pas à s'exporter. Là, il se trouve qu'on est face à un cas où on a un coach qui est débauché par un entraîneur, par un
club. Et donc quoi, on dit c'est génial, Pierre Sage,
message. Produit français qui va dans la première ligue du monde, c'est génial.
Je te dis pas que c'est génial, mais je te dis juste que notamment, il faut aussi arrêter l'hypocrisie parce que dans la Ligue des Talents, on accepte le trading.
Toi qui es hypocrite là.
Non,
tu te couches devant les Anglais en fait. T'es flatté que les Anglais, c'est comme un joueur français qui va jouer une NBA. Non, c'est génial.
Non, on doit décrypter ça. On doit faire notre boulot. On doit décrypter ça.
Et aujourd'hui,
on peut pas avoir une hypocrisie, notamment sur les joueurs qui partent et tout. On l'accepte. Le trading, c'est magnifique et tout. On arrive à exporter et sur nos entraîneurs, dire ah non, ça c'est grave. Non, il faut savoir aussi le dire.
Julien veut parler. Il y a une deuxième chose.
En fait, Julien. Elton, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est logique de l'accepter pour les coachs. Mais du coup, c'est d'autant plus triste de se dire qu'en Ligue 1, tu ne conserves même plus tes entraîneurs si tu n'es pas dans le top 3 des budgets.
Et puis la grande différence, c'est que quand tu laisses partir un joueur pour 40, 50, 60 millions, ça rentre dans les caisses du club. Quand tu vas laisser partir Pierre Sage, je ne suis pas sûr que tu vas récupérer cette indemnité de transfert. Donc il faut voir aussi qu'est-ce que ça t'apporte de laisser partir, que ce soit ton entraîneur ou un joueur à l'étranger, Elton. Tu peux pas dire que laisser partir un entraîneur, c'est avantageux pour la Ligue 1, ni même pour les clubs.
Je l'analyse, je te dis que c'est un game changer, parce que aujourd'hui, le fait d'avoir un entraîneur qui est courtisé.
C'est un tournant,
parce que on doit aussi le décrypter, à savoir qu'un entraîneur, notamment par rapport à ce qu'il a fait en Ligue 1, principalement, mais aussi en Coupe de France, aujourd'hui, est susceptible, de traverser la Manche, littéralement.
Julien, tu voulais rajouter quelque chose, je crois, non ?
Ce que je voulais simplement rajouter, c'est que certes, le monde ne peut pas rivaliser face à la Première Ligue, mais vous voyez quand même qu'en Espagne, en Allemagne ou même en Italie, c'est quand même plus simple de conseiller ses joueurs et ses entraîneurs que la Ligue 1.
Les Allemands sont attaqués, Julien, de plus en plus.
En Espagne, tous les meilleurs entraîneurs sont à l'étranger.
Maxime, tu as donné l'exemple de d'Iraola, qui était au Rayo Vallecano, qui a été débauché par Bournemouth. De la même manière, je me souviens qu'en 2022, Unai Emery sort d'une demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal. Il va à Aston Villa, qui à l'époque était 15e de Première Ligue. Faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, la Première Ligue, c'est l'équivalent de la chocolaterie. Et t'as besoin d'avoir ton ticket d'or pour y entrer.
C'est ça. Un chocolaterie, il faut un ticket d'or.
Un ticket d'or.
Donc Pierre Sage l'a gagné dans le chocolat.
C'est la référence cinéma, c'est ça, Charlie, chocolaterie.
Exactement.
Il est là, Johnny Depp. Le grand cinéma, Johnny Depp, bien sûr.
Bah oui.
Donc, il suffit juste de gagner ton ticket d'or.
Dans un premier temps, t'as ton ticket d'or. Ah, et ensuite, t'as l'ambition d'être dans la chocolaterie.
Je vais te dire, 100 euros.
Et Julien, merci. T'as l'ambition d'être dans la chocolaterie.
Merci, Julien. Tu reviens quand tu veux, même pendant la Coupe du Monde. C'était derrière l'équipe de France. Tu nous appelles au 32 saison, t'attends bien sûr. Et on va donner les infos. Reste à l'écoute de Génération After sur les potentiels successeurs de Pierre Sage. D'abord, je vais accueillir Daniel qui patiente également. Salut Daniel. Bonsoir Daniel.
Moi, ça va, ça y est, le film est fini. C'est un film qui dure depuis 15 jours avant la Coupe, enfin il y a un mois.
Oui.
Les infos commencent à circuler de Pierre Sage à Crystal Palace. Pardon. Les bruits de Pierre Sage qui part, ça fait 15 jours avant la Coupe de France que ça en parle. Donc ça veut dire que ses agents ont commencé à en discuter. Vous avez relayé les infos que les agents vous ont donné, et ça c'est tout à fait normal. Donc ça fait un moment qu'ils cherchent à se barrer déjà. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est la communication. Un jour je reste, un jour je pars. Le dimanche à Téléfoot, je serai l'entraîneur. Le lundi dans l'After Foot, je sais pas, je réfléchis. Et ça commence à déjà m'agacer. Donc je suis content. Quand on parle de son salaire, bon, est-ce qu'on peut arrêter cette hypocrisie? Il faisait 100 000 euros par mois à Lens. 100 000 euros par mois, à la fin de l'année, ça fait 1,2 million. 1,2 million, c'est 40 ans de vie à 2 000 euros par mois. Sur des émoluments comme ça.
Je
pense que Lens lui proposait un salaire à 150 000 pour jouer une LDC, se faire voir plus.
Daniel, je peux te demander combien tu gagnes, par exemple. Je te mets devant le fait.
Non, mais
si tu gagnes 2 000 euros par mois et qu'on te propose 10 000 euros pour changer de boîte, qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question simplement.
Ça dépend de la boîte. La boîte où il va, c'est pas son ancien patron qui l'a, la boîte. Enfin, il en fait partie.
John Textor.
Et vous avez pas trouvé bizarre que son discours commence à changer depuis que, bah, qu'on parle de Crystal Palace. Ça fait un moment, qu'il a arrêté de cracher sur le dos de John Textor.
Il a jamais, il a toujours été reconnaissant et Textor de l'avoir lancé. Ouais, c'est sur un branding.
Eh bien, je me trompe et je m'excuse.
Alors, les gars, juste question. Est-ce que, alors, les infos. Yannick Cahuzac, on en parle, mais il peut pas œuvrer en tant que numéro 1 car il a pas son BEPF. Il sera dans la promotion prochaine, saison prochaine. Il a pas un an d'ancienneté non plus au club pour demander une dérogation et éviter une amende. Son arrivée comme adjoint pour la saison prochaine donc, a été validée par Persa, j'ai dit tout à l'heure. On parle de plus en plus de la reconstitution d'un ticket l'orienté, Pantaloni, Cahuzac.
Accrochez-vous, je vous le dis.
Et pourquoi? Attends,
Daniel. Je l'ai eu, Olivier.
Mais là, il a bien bossé.
C'est un super gars. Si tu veux aller à l'apéro avec lui, tu t'amuses. Ça va avec Lorient, parce qu'évidemment, Lorient, tu sais très bien la manière de jouer. Si tu arrives en Ligue des Champions avec un Pantalon et qu'il te met une défense à 5, mais pas une défense à 5 à la Piersage, une défense à 5 à la Pantalon, courage.
C'est quoi une défense à 5 à la Pantalon?
Bloque pas, tu m'as bien compris. Transition offensive, on récupère le ballon et puis, écoute.
Ça marche pour certains.
Ah oui, ça marche avec Lorient. Je suis pas sûr que les supporters l'en soient, ou l'opinion publique, la manière dont Lens a joué cette année, je suis pas sûr qu'ils vont gagner au change.
Mais il est pas sale. Oui, je sais que tu l'aimes bien. T'aimes bien l'homme et tout ça.
Pantaloni, j'aime beaucoup. Mais, c'est un super gars.
Mais il est pas sale.
Il faut rester sérieux. Aujourd'hui, après, tu vas aller en Ligue des Champions. Tu vas jouer contre Arsenal, tu vas jouer contre le Real Madrid, et tu vas te retrouver à jouer avec l'entraîneur de Lorient.
Et alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça?
Régis Lebris, il est qualifié pour la Ligue Europa avec,
Eric Roy la saison dernière? Eric Roy, la saison dernière, il était précisément dans ce même cas de figure.
Bah, Eric Roy, c'est un petit peu différent. Eric Roy, il a emmené son Stade Brestois en Ligue des Champions. Pantalon, il récupère Lens en Ligue des Champions.
Et Pantalon, il a emmené Lorient 9e de Ligue 1.
Alors, ça suffit pour pouvoir coacher en Ligue des Champions.
Mais ce que je veux dire, c'est
Nico, aide-moi.
Tu crois? Non, parce que je suis partagé là-dessus.
Ah bon?
Est-ce qu'il faut un CV? Est-ce qu'il faut une carte?
En tout cas,
là, on parle d'un ticket Cahuzac Pantaloni.
Écoutez,
Cahuzac, on nous a dit plus grand bien. Alors, on a dit, c'est un futur numéro 1, c'est énorme. Il a tout compris.
Moi, j'ai vu un Olivier Pantaloni qui parle pas anglais. D'accord, je vais vous le dire. Alors déjà, ça va être très très compliqué pour les joueurs anglophones du côté du Racing Club de Lens.
Il
va peut-être avoir quelques recrues, rassurez-moi, si tu perds 4 ou 5 tauliers. Non? Et encore une fois, parce que je sais qu'il va m'écouter, je sais qu'il va m'entendre, parce que je sais que c'est un grand fan de l'afterfoot.
Et il fait bien.
Olivier, s'il te plaît, vraiment ne m'en veux pas. Mais je pense que la marche, Lorient, 9e de Ligue 1, et le Racing Club de Lens, 2e de Ligue 1, Champions League, est un petit peu.
Il y a un délit de CV, là, de réputation. T'arrives pas à imprimer le portrait Pantaloni et la musique. T'arrives pas à ça.
Non mais Nico, le problème de Maxime, c'est que justement la finalité pour Lens, l'unité de mesure de la saison prochaine lensoise, c'est pas la Ligue des Champions, c'est continuer de travailler par rapport au projet, continuer de grandir à travers la Ligue 1, se pérenniser. C'est le discours qu'ils nous vendent. C'est pas forcément la Ligue des Champions. Ils vont jamais quantifier comme objectif aller en quart de finale, aller en huitième de finale de Ligue des Champions.
Il faut quand même exister, Elton. Bah,
alors évidemment, s'ils y vont, c'est très bien. Encore plus sur ce nouveau format. Mais à côté de ça. Ils sont sur la même ligne de conduite, que ce soit avec Piersage, que ce soit avec Pantaloni, s'il venait à être nommé.
Bon, en tout cas, faut-il être inquiet pour Lens saison prochaine, les amis, parce qu'il y aura des départs également. Ça a été dit récemment, les départs de joueurs sollicités, ceux qui ont brillé cette saison, pour les mêmes raisons que Piersage, attaqués par des clubs anglais pour des salaires 3-4 fois supérieurs. Est-ce que vous pensez que la structure lensoise est assez forte pour maintenir? Il l'a dit, hein. Jean-Louis Lécal l'a dit récemment chez Jérôme. On fera pas la même saison prochaine. On sera pas deuxième de Ligue 1, mais pour maintenir quand même un top 4, top 5 Ligue 1. Est-ce que vous êtes inquiet pour ça?
C'est du déjà vu du côté du RC Lens, à savoir que t'es régulièrement attaqué, que ce soit à travers tes joueurs, à travers tes coachs, que ce soit avec Francaise, que ce soit avec Wissil, que ce soit avec Piersage. Et à côté de ça, t'as toujours été en capacité, pas forcément de te relever, mais de suivre ta ligne de conduite. Donc moi, je pense que Lens va continuer à suivre sa ligne de conduite et que le projet est plus important que les hommes. Alors peut-être que c'est ce qui a un peu coûté, notamment dans cette fin à venir entre Piersage et Lens, parce que moi personnellement j'ai senti un peu de légèreté, notamment du côté lensois, au moment de parler de l'avenir de Piersage. En gros, si tu pars, tu pars. On est quand même dans un milieu, je pense au contrôle de Maxime, il y a quand même beaucoup d'ego et de relationnel. Et je pense que ça aurait été aussi bien de donner des gages à Piersage pour pouvoir lui dire on compte quand même sur toi, pas seulement s'enfermer, notamment sur la dimension contractuelle.
Ouais. Moi, j'ai vraiment bon espoir de voir Lens se pérenniser dans le haut de tableau de la Ligue 1. Je trouve qu'il y a une équipe dirigeante très.
Bien sûr. Gourlian, Benjamin Parot, Caillou Jacques désormais, Jean-Louis Léca.
Que je trouve très performant aussi. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils ont compris comment fonctionne en tout cas la Ligue 1 actuellement, l'industrie du football, quand tu as un club comme le Racing Club de Lens. Donc, j'ai bon espoir de, évidemment, les voir encore faire une très belle saison. Peut-être pas la saison qu'ils ont faite parce qu'on sait peut-être. Enfin, moi, j'ai presque l'impression qu'ils étaient en sur-régime. Bon. L'avenir me dira si oui ou non j'ai raison. En tout cas, voilà, le plus important, ça va être surtout de remplacer les partants. On sait que Thomasson est déjà parti. On l'a dit par rapport à Wesley Saïd. Il faudra faire attention vraiment sur les deux jeunes parce que moi, c'est vraiment les deux interrogations que j'ai Gagnou. Par rapport à Sangaré et Gagnou qui, pour moi, sont les plaques tournantes de ce Racing Club de Lens. Ils ont énormément joué et ils ont été très, très performants. Ouais. Maintenant, si ça leur permet.
Baïdou
aussi, ouais. Après, si ça leur permet de récupérer un peu d'argent et derrière de bien investir, je pense qu'en fait, elle est là, le point d'interrogation, Nico.
Bien sûr. C'est
qu'est-ce qu'ils vont faire finalement avec les joueurs qui partent, avec l'argent qu'ils vont récupérer, mais comme je l'ai dit, avec une équipe dirigeante qui est performante, j'ai bon espoir qu'ils arrivent à retrouver des nouveaux joueurs et qu'ils puissent repartir sur une année, en tout cas paisible l'année prochaine.
Il n'y a pas beaucoup d'argent à Lens, en tout cas, il faudra mener de front à la fois la Ligue des Champions, 8 matchs phase de Ligue, plus la Ligue 1, même si Joseph Courillon a toujours dit, hein, Lens, c'est top 8 Ligue 1, donc si on est 7e, 6e, dans l'absolu, on est dans les clous, côté Lens.
À partir du moment où tout le monde est en phase avec ce projet, avec cette idée directrice, c'est parfait. Et donc voilà, il ne tient que, alors pour l'instant Pierre Sage est encore officiellement l'entraîneur du RC Lens, il ne tient qu'à son successeur probable de suivre cette ligne de conduite. Bon. En sachant qu'il y a un trophée qui va arriver très rapidement.
Et moi, champions.
Le trophée des champions.
T'y tiens? Ah ouais, ah oui. C'est important.
Bah pour un club comme Lens, avoir le point. Non mais Nico, on a déjà
fait ça. Ça c'est pour les gogos.
On a déjà fait
pour les gogos et les footballeurs, pas des gogos. Hein.
On a fait ce débat.
Mais oui, je comprends les footballeurs. Non, mais toi non, pas toi Elton.
Non, on a fait ce débat à un moment donné dans le football français, encore plus pour un club comme Lens. Tu peux pas être condescendant au moment de te dire, je peux braquer.
C'est sûr, c'est sur un match.
Bah c'est sur un match.
Bien sûr, sur un match. Non, il faut y aller. Tu sais que moi j'ai gagné.
Mais oui, je dis pas qu'il faut y aller, mais arrêtons de survaloriser trop.
Ah non, survalorise.
Mais quand t'es joueur et que t'as gagné très peu.
Oui, joueur. Ok.
Bon bah voilà.
Et pas Elton. Elton, il n'est pas invité. On s'en fout là. Il va pas jouer à Bollard.
Tu vois, c'est ça ton problème, ouais. C'est que tu donnes pas assez de considération à des trophées français. Voilà, c'est ça. Moi, je fais le boulot.
Oui, toi, t'es fan de la Super Coupe d'Europe. C'est génial, c'est merveilleux, c'est grande soirée de gala.
T'écris une histoire. Ouais. Je peux te garantir que la perspective de jouer le trophée des champions à Bollard et de remporter un trophée face au double champion d'Europe en titre, c'est une perspective qui, pour moi, elle me paraît excitante.
Ouais. Allez, pause. Dans un instant, la suite. Je précise également Patrick Vedera, hein, qui a fait monter Le Mans, de National à Ligue 1. Et aussi pressenti. Son entourage a été contacté par les dirigeants lensois. On va suivre ça dans les prochaines heures. Bruno Genesio peut-il incarner l'Olympique de Marseille? On va en parler, en débattre. Il arrive à l'OM dans quelques jours, quelques heures même. Reste avec nous, la suite des générations After sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Elton Mokolo, avec Maxime Chano, on est ensemble jusqu'à 22h. Génération After. Tout à l'heure, on parlera de l'équipe de France, bien sûr, les dernières infos. Les Bleus continuent leur préparation. Ils sont à Nantes désormais, demain soir. France-Côte d'Ivoire. Retour de Deschamps à Nantes. Retour d'Emers Faye aussi à Nantes. Intéressant. Là où il a été formé à la Genelière, Emers.
Donc, qu'est-ce que comme Didier Deschamps. En fait, il y a beaucoup d'influence nantaise.
Ouais, non, mais c'est des histoires, hein. C'est du récit, c'est de l'histoire, c'est de l'émotion. Ça représente beaucoup pour ces deux hommes. Deschamps est d'ailleurs allé voir Ronald Denouex, hein, pendant son petit séjour, court séjour à Nantes, là. L'homme qu'il a formé à la Genelière. Alors, d'abord, Bruno Genesio, il arrive à Marseille. Voilà, les informations RMC Sport. On savait, on sait que ça va se faire, évidemment, mais ça y est, on est en mesure de dire que ça va être acté dans les prochaines heures. Les décideurs de l'OM ont abouti à un consensus, hein, autour de son nom. Contrat 2 ans. Plus une année en option pour Bruno Genesio avec l'Olympique de Marseille. C'est pas non plus un contrat trop long. La question qu'on se pose, c'est peut-il incarner l'OM, lui le Lyonnais, lui qui a parfois fléchi devant la pression à Lyon, à Rennes même, où il s'est dit fatigué parfois, à Lille aussi, où parfois il a eu du mal à supporter certaines contre-performances de ses joueurs. 32-16 pour en débattre, bien sûr. Alors d'abord, évidemment, ce choix lui appartient. On peut quand même en parler. Quitter Lille, fin de contrat, nouvelle aventure Ligue des Champions, avec un effectif quand même consistant pour Marseille, chantier immense, Ligue Europa à venir. Est-ce forcément une progression? Max.
Moi, je pense qu'on peut
pas. C'est une progression ou pas?
Oui, bien sûr, c'est une progression. Et je pense surtout que quand tu t'appelles Genesio, tu peux pas refuser l'Olympique de Marseille. Là où je trouve un petit peu paradoxal, c'est qu'il a quand même, tu l'as très bien dit, l'étiquette Olympique Lyonnais. Donc, on connaît un petit peu les rancœurs entre Marseille et Lyonnais. Genesio, lui, qui n'aime pas trop la critique, on sait qu'à l'Olympique de Marseille, bah, il va être sous le feu des projecteurs avec les journalistes. Donc là, je me pose la question par rapport à ces deux facteurs-là. Après, d'un autre côté, Genesio, il a les résultats qui parlent pour lui. C'est deux podiums avec Lille. Et puis surtout, je trouve que malgré le fait, je l'ai dit juste avant, qu'il a du mal à accepter la critique de la part des journalistes, ça a l'air quelqu'un qui a l'air quand même d'assez calme. Voilà, moi j'ai quelques amis dans le vestiaire à Lille. Ils m'expliquaient très justement à quel point Genesio était proche de ses joueurs. Et c'est vrai que dans un contexte marseillais où est-ce que on a eu le sentiment avec un Abi Bey qui était justement contre ses joueurs, avoir un Bruno Genesio et le type d'entraîneur comme ça, je pense que ça peut être bien pour le management de l'équipe. Voilà, c'est une première chose. J'ai presque envie de faire le parallèle. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, il me fait penser un petit peu à Eric Guéret. Tu te rappelles un petit peu,
Et en fait,
je me dis pourquoi pas. Tu vas avoir un entraîneur qui connaît encore une fois la Ligue 1. J'ai expliqué, je trouve que tu vas gagner du temps. Il y a un chantier monumental. Et puis finalement, quand tu regardes un petit peu avec le directeur sportif Greg Lorenzi, j'ai le sentiment que tous les deux, c'est un petit peu pas les mêmes profils, bien évidemment. Mais c'est des gens calmes, qui ont l'air d'être modestes. Et peut-être que dans cet Olympique de Marseille, qui des dernières années ont été chercher des entraîneurs étrangers avec énormément de caractère. Je pense à Gattuso, je pense à De Zerbi.
Bling bling, quoi.
Et ben voilà, aller à l'inverse de cette idée. Pourquoi pas,
c'est ça.
On verra.
Un duo Lorenzi-Genesio, retour à une forme de simplicité également.
Il n'y a pas énormément d'épices.
Exactement.
Mais voilà.
C'est un peu terroir, justement. Même si les deux gars bossent très bien, Lorenzi pendant 10 ans à Brest, Genesio dans les trois clubs où il est passé. Qu'est-ce que t'en penses?
Mais c'est surtout fonctionnel. Moi, déjà, il ne faut pas faire une erreur qui est pour moi fondamentale et qui a expliqué les déboires récents de l'Olympique de Marseille, faire de Bruno Genesio l'homme providentiel de l'Olympique de Marseille. Pour moi, il faut le recentrer. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est recentrer ça dans une planification sportive autour d'un ticket. Lorenzi, Genesio, et avoir notamment une structure, une direction collective, globale, qui avance dans le bon sens. Parce que faire de Bruno Genesio l'homme providentiel, parce que c'est Bruno Genesio, il est passé par Lyon, il est passé par Lille, il est passé par Rennes, et que factuellement il a remporté deux titres d'entraîneur de l'UNFP et que c'est un très bon choix, moi je me dis non, faisons attention, apprenons de nos erreurs du côté de Marseille et faisons en sorte qu'il y ait un projet collectif avec une planification sportive qui fasse que l'Olympique de Marseille revienne en Ligue des Champions. Donc incarner l'Olympique de Marseille, moi j'irai pas jusque là.
Bon, pourtant ce sera la figure de proue, hein. C'est le coach, hein. C'est Genesio avec son CV.
Il y a quelque chose qui est indéniable, c'est-à-dire que à Marseille, t'es l'équivalent du président de la République. T'es la personnalité publique, c'est-à-dire le gars qui, au bout d'un match au Vélodrome, peut se faire siffler. Pour autant, moi, je pense que Bruno Genesio, par rapport à ce que t'as évoqué du côté de Lyon, est devenu un meilleur entraîneur dans sa capacité à encaisser des coups. Et moi, on a parlé de ce qui s'est passé du côté de Lille, où c'est vrai, à un moment donné, il a mis en balance son avenir. Mais toujours est-il qu'il a répondu de la meilleure des manières en allant chercher le premier podium du club depuis 2021. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi de la résilience. Ça sera pas entre guillemets de peu.
Oui.
On aura besoin du côté.
J'ai peur d'une mauvaise série de 4-5 défaites consécutives. Et là, ça va être n'importe quoi. Et là, effectivement, c'est l'origine lyonnaise pour remonter à la surface.
Après Nico, c'est pour tout le monde.
Je sais comment c'est. Hein. Bien sûr, c'est pour tous les entraîneurs la même chose. Hein.
Tout le monde a pété un plomb.
Voilà.
Abi Bey récemment. De Zerbi aussi. T'as raison. Que Guéret qui est en maîtrise. Bien ça, c'est parti pour l'autre raison.
Ça va avec ce qu'on a reproché cette année à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que tout le monde était dans la communication, dans la presse, ça a été toujours très. En fait, à chaque fois qu'il y avait un orage, au lieu de le calmer, que ça soit Mehdi Benassa, que ce soit De Zerbi, en règle générale, même Abi Bey, la manière dont il défendait son bilan, en fait, tu te rendais compte que ce qu'avait besoin l'Olympique de Marseille, c'était beaucoup de calme. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'on a vu sur la saison précédente. Alors je me dis peut-être qu'avec Genesio, peut-être qu'avec Greg Lorenzi, ça peut peut-être contrebalancer ce qu'on a reproché à l'Olympique de Marseille l'année dernière.
Lorenzi peut-être. Bruno Genesio, ce qu'il caractérise, c'est pas forcément le calme. Hein.
Non, mais t'es bien
il
d'accord.
Il a effectivement
aussi électrique que Nelly
des bonheurs. Ça, mais c'est quand même quelqu'un qui
a
du tempérament, qui réagit en conférence de presse, qui envoie des pics aussi, qui est susceptible, qui s'en prend. Voilà.
Moi, c'est un peu pas l'interrogation que j'avais sur lui. En effet,
c'est pas la tranquillité, la sérénité incarnée non plus.
Par rapport au journaliste, mais t'es d'accord avec moi que c'est quand même moins épicé, moins spicy qu'un Sampaoli ou comme un Gattuso ou qu'un De Zerbi.
Ouais, mais à sa façon.
Après, que dans la tempête marseillaise, Genesio va permettre un petit peu de calmer la situation.
Il a de l'ego.
Ouais, faut quand même avoir de l'ego pour exister dans ce métier, parce que t'es contesté par rapport à des résultats que tu peux estimer injustes. Et c'est vrai que il a pu estimer qu'il y ait des critiques qui étaient parfois injustes selon lui. Mais toujours est-il que moi, par rapport à la fonction, moi, je me dis, c'est un homme qui est indiqué, clairement. Ouais.
Bon. Moi, je pense que c'est une bonne idée, en tout cas.
Dans un instant, Florian est avec nous, supporter marseillais. Lui, il pense que Genesio va pas supporter la pression. Il va même plus loin que ça, qu'il démarre même pas la saison.
Ah, ouais.
Ah oui, quand même.
Ouais. J'ai un peu spoilé son avis, mais dans un instant, Florian est avec nous au 32-16. Vous écoutez RMC Génération After avec Elton Mokolo et avec Maxime Chano. Younes Belhanda nous rejoint dans quelques minutes. Bien sûr, on parlera de l'équipe de France et du Maroc aussi à une semaine du début du mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Elton Mokolo, avec Maxime Chano, Génération After RMC, 20h43. On est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez. Alors, continuons et terminons sur Marseille. Genesio arrive, prochain coach de l'OM, Ligue Europa, objectif podium, saison prochaine. Florian est avec nous. Salut Florian.
Bonsoir,
Florian. Supporter marseillais, bienvenue dans Génération After. Alors, toi, t'es vraiment ultra sceptique hein, quant à la réussite éventuelle de Genesio, quoi.
Oui, parce que. Alors j'avais dit sur WhatsApp un peu sur le temps de la plaisanterie, mais pas tant que ça. S'il se met le feu tout seul à Lille et à Rennes, il va démissionner à la fin des matchs estivaux. C'est pas possible. S'il peut pas supporter la pression dans des clubs. Je veux pas être médisant, mais de moindre mesure en ce qui concerne la pression à la fois populaire, médiatique. Et en tout l'environnement, à Marseille, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Je souhaite me planter, mais
après, on voit pas comment c'est possible. Quand tu arrives à l'Olympique de Marseille, tu dois aussi savoir remonter un peu le curseur. J'espère qu'il aura l'intelligence de le faire. Il a quand même assez d'expérience.
Et puis encore une fois, faut bien comprendre que par rapport aux expériences que tu as évoquées, là, c'est à un moment donné, c'est du sport de haut niveau, il y a de l'ego, il y a du relationnel, c'est-à-dire on a des êtres humains qui discutent, qui peuvent avoir des sentiments négatifs.
C'était l'année dernière.
Non, mais ce que je veux dire par là, moi, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes, ça l'a pas empêché derrière de repartir de l'avant et d'aller chercher un podium avec le LOSC, alors qu'ils avaient 11 points de retard, c'était qui sur l'Olympique Lyonnais. Tu vois ce que je veux dire?
Sinon, on l'espère tous.
T'aurais préféré quoi, Florian, toi? Est-ce qu'un profil comme Galtier t'aurais préféré dans l'absolu?
Galtier, je préfère me mordre l'avant-bras.
C'est méchant, quoi.
Non, mais Galtier, c'est vraiment le prototype de l'entraîneur basique de chez basique. C'est insupportable. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un déclassement pour l'Olympique de Marseille.
Par rapport à quoi?
Par rapport à l'entraîneur. Alors, deux Zerbi qui.
Mais deux Zerbi, vous étiez tous conseillés à demander sa démission.
Comment?
Vous étiez tous à demander la démission de deux Zerbi, donc déclassement.
Je crois pas qu'il. Le problème, c'est que tu regardes trop Twitter et si tu étais à l'intérieur du stade Vélodrome, tu saurais que.
Ah, il n'y a pas eu des sifflets quand deux Zerbi était entraîneur?
Alors, il n'y avait pas eu du tout de sifflet quand De Zerbi était
entraîneur. On a eu beaucoup au standard de supporters marseillais, pas qu'au standard d'ailleurs, qui n'en pouvaient plus de De Zerbi, même avant ces pétages de plomb sur la fin, quoi. Florian,
non, là, ça représente pas du tout la réalité des supporters.
Tu vis à Marseille, toi?
Je vis à Marseille, je suis abonné depuis 98. Okay. Crois-moi que des supporters des entraîneurs qui n'étaient pas du tout aimés au sein du club, j'en ai connu une palanquée, et crois-moi que De Zerbi, il était clivant, ça c'est certain, son style de jeu était clivant, mais il n'y avait pas ce qu'on peut ici entendre.
Après, Florian, faut comprendre une chose, t'as parlé de déclassement, c'est la réalité du côté de l'Olympique de Marseille.
La réalité du football français.
Oui, et c'est la réalité de l'Olympique de Marseille, parce qu'au final, le choix de Zerbi, dans la trajectoire des entraîneurs de l'Olympique de Marseille sur ces 15-20 dernières années, c'est une anomalie. Je veux dire, quand tu prends Villas-Boas, il a la relance. Quand tu prends un Sampaoli, il a la relance. Quand tu prends un Tudor, il a la relance. Au final, le choix de Zerbi, c'est un choix qui dénote, parce que effectivement, c'est un entraîneur entraîneur qui sortait d'une expérience du côté de Brighton. Mais ce que je veux dire par là, Bruno Genesio, c'est beaucoup plus un choix classique dans les 20 dernières années de l'Olympique de Marseille. Ah oui, mais à un moment donné, il faut vivre aussi avec en adéquation avec sa réalité.
On avait un triumvirate, moi je trouve, qui était quand même super intéressant, entre un président scout, fan, grand supporter de football qui comprenait quelque chose, de Benatia qui était un mec qui avait un réseau lourd comme un bras, et
le problème, Florian, c'est que ton trio en question, c'était du napalm et qu'ils avaient un briquet à chaque fois.
Merci.
Voilà.
Tout à fait. Merci.
Ah oui, c'est ça.
Et bien sûr.
Ah oui, c'est ça. Ils mettaient la pression tout seul. C'est eux qui ont, c'est d'eux-mêmes qui se sont mis le feu.
Ah, mais moi, je suis d'accord. Moi, je regrette que De Zerbi se soit mis le feu tout seul, dans une émission.
On va pas faire l'histoire.
Je suis pas sûr de comprendre par rapport à ça.
Qu'est-ce qui t'arrive avec ça?
On est en train de dire que là, justement, le fait que l'Olympique de Marseille ait fait cette saison, c'est justement à cause de ce trio. D'accord, ils ont fait des très bonnes choses, on l'a dit, ils ont fait des choses quand même où c'était assez maladroit. Enfin voilà, on va pas revenir sur ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille cette saison, mais entendre dire que ça se passait bien avec Benatia, que ça se passait bien avec De Zerbi et Longoria, excusez-moi, enfin nous on en a parlé pendant 12 mois, quand même t'avais énormément de Marseillais qui étaient contre ce trio. Enfin voilà, c'est tout.
J'ai jamais dit que ça se passait bien, je dis juste
tu ne peux pas regretter donc De Zerbi. Si aujourd'hui Genesio est là, si Genesio ça fonctionne, je pense que tous les Marseillais seront contents d'avoir Genesio.
Je serai le premier à appeler pour faire mon mea culpa en disant je me suis bien planté là-dessus.
D'accord.
Mais malheureusement, je pense que c'est
une bonne chose en tout cas. Même si j'avais prêché un petit peu pour Galtier. Rappelez-vous, je pensais que le personnage était intéressant, le fait qu'il connaisse aussi évidemment l'Olympique de Marseille,
aussi,
on connaît un petit peu son
avec une résistance à la pression, je pense.
Exactement. Alors après, il a cette casserole, si on peut appeler ça cette casserole, oui, qu'il a entraîné le Paris Saint-Germain.
Ouais, pareil, bon. Max. Encore une fois, il démarre par 4 victoires en Ligue 1.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu regardes aujourd'hui Genesio, il a la même chose avec l'Olympique Lyonnais, mais c'est vrai que Galtier, il avait cette opportunité, cette possibilité de gérer un vestiaire. On l'a vu au Paris Saint-Germain, il est en mesure de pouvoir gérer des noms. Il a gagné avec le Paris Saint-Germain, il a gagné, me semble-t-il, aussi avec Saint-Étienne.
Il a gagné avec Lille.
À un moment donné où, rappelez-vous, la Ligue 1 était quand même ultra dominée, comme c'est le cas encore aujourd'hui, par le Paris Saint-Germain. Donc je m'étais dit pourquoi pas, je pensais que c'était un bon profil.
Il faut voir le style de jeu qui est proposé par Galtier, c'est un type.
Ah oui, après, qu'est-ce que tu veux, gagner ou voir du beau jeu?
Qu'est-ce que tu veux, Florian?
On peut pas gagner avec le Paris Saint-Germain, donc il nous reste que le beau jeu. Je suis désolé, mais De Zerbi, c'est moi.
Aujourd'hui, Florian, la priorité pour l'Olympique de Marseille, c'est de redevenir une équipe compétitive, une équipe fonctionnelle, qui se fasse pas éclater tous les 15 jours.
Et retrouver une forme de sérénité, de continuité, voilà. Florian, merci d'avoir fait le 32-16. Je me rappelle quand tu veux, on fera les points, les comptes avec toi, bientôt, évidemment. Bonne soirée à toi, tu verras quand tu veux sur RMC. Quelques infos à vous donner, les amis. Notamment, du Paris FC, où on reconnaît que le dossier Camboiré traîne un peu trop.
Ça, c'est surprenant.
10 jours après le rendez-vous avec Camboiré, le propriétaire Antoine Arnaud et le directeur sportif Marco Nep, aucun accord conclu entre le coach et le club parisien.
Le football est ingrat quand même. Hein.
Ouais. Non, non, mais attends, je suis pas en train de te dire qu'ils vont le jeter, Camboiré. C'est pas ça, c'est que les deux sont embêtés par rapport à son souci de santé, par rapport à cette fameuse ce problème au genou, cette opération à venir. C'est la principale inquiétude des dirigeants, de Camboiré aussi. Des négociations existent aussi sur la durée d'une éventuelle prolongation de contrat, mais on laisse filtrer que cela ne remet absolument pas en question la volonté de Paredo de continuer, tu vois.
Dans quel projet,
c'est ça, et surtout
c'est de savoir si c'est du court terme, du moyen terme.
Et
quand
oui.
Tu vois comment
et tu prends du retard sur la préparation de l'effectif.
Tu vois comment Camboiré a redressé cette équipe. Honnêtement, moi je lui donnerais un peu plus de crédit. En tout cas,
bien sûr. Ah bon, moi je suis pas d'accord.
Ah ouais. En quoi t'es pas d'accord?
Attends, il a fait une saison.
Mais bravo.
Avec l'effectif.
Que le PSG ne perde pas de temps, construise avec un coach sur la durée, simplement un coach référencé qui a des belles idées de jeu. Plus jeune, certainement, je suis pas du jeunisme, il y en a sur le marché, des coachs intéressants. Pierre Sage a d'ailleurs été une bonne option pour le Paris FC. Ça en fait partie. Et construit sur la durée, vas-y. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Il sera fragilisé dès qu'il y aura une série de 3-4 défaites, Antoine Camboiré, il y aura des doutes. Voilà.
Ouais, non, mais
on va dire, bon,
ça, en fait, Nico, c'est la vie d'un entraîneur.
Moi, la prolongation, à la reconnaissance du travail effectué.
Non.
Sur 6 mois, je n'y crois pas. Voilà. Tu remercies pas un coach en lui filant une prolongation. Mais bon, peu importe.
Un entraîneur qui est fragilisé, c'est la vie d'un entraîneur. Et pour moi, Antoine Camboiré, c'était l'un des noms de la deuxième partie de saison de Ligue 1. Donc peut-être que tu as aussi envie de te pérenniser sur la saison prochaine avec lui, avec le PFC, en te disant que voilà, par rapport à ce qu'avait dit notamment Arnaud ici sur ce plateau, en disant que voilà, il fallait y aller étape par étape. Moi, je pense que t'es dans un process qui est classique.
Oui, mais en développant aussi un coach, je pense.
Ça fait du sens. Si tu veux un projet sur moyen ou long terme, en effet, il vaut mieux aller chercher un Didier Digard ou un entraîneur un peu plus jeune avec une vision du football un peu plus moderne. Maintenant, Camboa, il est arrivé, il a redressé ce Paris FC, il les a fait terminer dans la première partie de tableau, c'était quasiment impossible.
Bravo.
En tout cas,
oui, mais
voilà,
tu et donnes
avec
une médaille,
un, avec
voilà,
un effectif quand même. Un peu moins.
Une médaille, merci, ah, bravo, okay, et maintenant on avance. Attends, toi.
Il lui a quand même donné des joueurs. Ouais,
écoute, moi j'ai connu la même chose, notamment à Nantes, quand Derzakarian fait remonter le FC Nantes en Ligue 1, Valdemar Quetta est là, il dit, on comprend qu'en fait il ne croit pas trop en lui sur la durée, il le maintient, 3 défaites, ça dégage.
Ouais, ouais,
voilà, parce que c'est pas l'avenir.
Anticiper que t'as pas l'équivalent d'un Quetta au PFC. Ouais. J'ai l'impression.
Ouais. Et là, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il faut anticiper s'ils sont dans cette mentalité-là pour pas te retrouver au mois de septembre ou au mois d'octobre, la première trêve internationale, dégager ton entraîneur.
Et à commencer à douter, finalement.
Dans l'urgence. OK.
Voilà.
Maintenant, c'est là que je me dis quand même que le football a une mémoire courte et je comprends Pierre Sage. Ça revient par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, Pierre Sage, il a fait une saison exceptionnelle à Lens. Imaginons, messieurs, qu'il perde ses meilleurs joueurs et qu'il fasse une série de 4 ou 5 défaites. Et ben, il sera déjà fragilisé. Donc, il a bien raison d'aller à Crystal Palace.
Je peux te dire, le 32-16 sera en feu.
C'est tout.
Le 32-16 sera en feu en disant, ouais, Pierre Sage, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ouais, c'est la réalité d'un entraîneur par rapport à ses résultats. En fait, le football n'a pas vraiment de mémoire.
Alors, quelques infos également pour nos amis Girondins également, qui nous écoutent. Vous savez, les Girondins, National 2, qui ne monteront pas en National, deuxième de leur groupe, détenu depuis 5 ans par Gérard Lopez. Bordeaux a peut-être trouvé un nouvel actionnaire majoritaire. C'est ici Gironde qui nous le dit. Fonds d'investissement anglais, Sparta Capital, accord pour acheter 67% des parts du propriétaire actuel et mettre et éponger déjà les dettes en injectant tout de suite 6 millions d'euros au sein du club pour investir sur plusieurs saisons, 20 millions d'euros pour évidemment relancer ce club à la dérive. C'est le club des Girondins de Bordeaux. Voilà, donc désormais un peu de recul pour Gérard Lopez qui restera quand même là avec ses parts. Mais c'est une bonne nouvelle pour nos amis Girondins qu'on salue bien sûr. Une info mercato à vous donner également, le Real Madrid, Florentino Pérez a prévu un gros mercato avant même sa réélection à venir, qui ne fait aucun doute. Denzel Dumfries, Inter Milan, va signer au Real. Il a 30 ans, vous le connaissez, international néerlandais, qui doit jouer d'ailleurs ce soir un match amical contre l'Algérie. 20 millions d'euros, c'est la clause pour le latéral droit, pour rejoindre l'Espagne. Accord trouvé dans la soirée, quelques détails à régler, c'était hier soir. Voilà, Dumfries,
double finaliste de Ligue des Champions. C'est un joueur qui a quand même connu une saison qui a été difficile avec les blessures, et donc il faudra juger notamment son état physique. Mais toujours est-il que dans un poste sinistré, celui de latéral droit, pour prendre la succession de Carvajal qui est parti, moi je pense que c'est une bonne idée.
Bon, Trent Alexander-Arnold, on en fait quoi à Madrid?
Ils vont se battre pour une place au Real Madrid.
Wow.
Une place de titulaire. C'est le football.
Tout à fait, exactement. Et puis Ederson va s'engager à Manchester United, vous l'avez suivi également, 45 millions d'euros.
Bon choix.
Entre la Talanta et Manchester, le montant de la transaction pour ce transfert. Wistil et la JOCR aussi, ça avance bien. RMC Sport, on le disait hier soir, tard, il devrait retrouver la Ligue 1 après son échec à Southampton, où il n'a gagné que 2 fois en 16 matchs. Après ses passages également réussis à Reims, puis le deuxième passage à Lens pour Will Steele. Heureux de le retrouver en Ligue 1, Will Steele.
C'est le symbole de la mutation du projet auxerrois qu'on avait évoqué la dernière fois. Avoir un entraîneur qui a peut-être une dimension plus importante qu'un Pélissier. Un entraîneur qui peut aussi...
Dimension plus importante?
Ah bah oui,
même dans le jeu.
Aussi.
La grande différence avec Will Steele et Pélissier,
c'est que t'en as un qui se positionne dans les médias et l'autre qui est complètement discret. Non, je parle de Pélissier, donc ça me fait bien. J'aime bien pour la Auxerre, c'est pas mal.
Non mais Nico, on peut discuter des résultats récents de Will Steele, de ce qu'il a fait de bien ou de pas bien. Toujours est-il que c'est un entraîneur qui a récupéré le RC Lens, c'est un entraîneur qui a récupéré Southampton, donc c'est un entraîneur en termes de projection, je pense que la direction se dit que t'es capable de faire un saut qualitatif avec lui. Alors, est-ce que ça va se matérialiser? Je ne sais pas, mais toujours est-il que dans la vision de la GOCR, notamment pour valoriser des joueurs, bah, c'est une piste bah, qui me paraît logique, cohérente.
La génération after, sans l'expression saut qualitatif, avec Elton Mokolo, n'est pas un génération after, sache-le.
Saut qualitatif. J'apprends énormément d'Elton dans son élocution.
Danemark, Congo, RDC, pardon. Elton en joue depuis, c'est la mi-temps, 0-0 entre les Danois et la RDC. 0-0 entre la Pologne et le Nigeria, ça vient de commencer. Pays-Bas, Algérie, une minute de jeu, 0-0. Luxembourg, Italie. Le nul pour l'instant.
Et voilà.
Le nul pour l'instant.
Et sachez une chose, la dernière fois qu'on a joué contre l'Italie, un partout. 90e minute, Chano, égalisation.
Waouh!
Ouais. Wow,
la troisième personne. T'as encore des collègues hein, qui jouent à Vincent Thiel, il est toujours là. Incroyable.
Ouais, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Enfin, j'ai des collègues.
Marcus Pereira est toujours là, je vois.
Ouais. Hein,
parce que tu... Le capitaine, je les connais très bien.
Ouais, tu les connais très bien.
Laurent Jans aussi est toujours là. Hein.
Ouais, capitaine. Ouais,
capitaine, tout à fait. Et oui. Maurice est toujours là, ton gardien, c'est incroyable. Anthony Maurice est toujours là aussi.
Philippe, bref. Non? Ah non, ça, c'est autre chose. Ça.
Philippe. Le tennis rapidement avec Sayo, bonsoir.
Bonsoir à tous.
T'as un quart de finale ce soir, un beau quart de finale qui vient de commencer.
100% italien entre Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi. Et il y a 3-2 pour Berrettini qui a un break d'avance. Il a mené 3-0, mais Arnaldi commence à chauffer ses jambes. Hein. Il a presque 17 heures de jeu dans les jambes. Et on rappelle qu'il y aura forcément un Italien en finale puisque le vainqueur de ce derby affrontera vendredi Comoli qui a battu Oji Aliassim en 4 manches.
Plus à l'aise sur les courts de tennis de Roland Garros que sur les terrains de football, les Italiens.
Un peu d'humilité. Ils ont quand même 4 Coupes du Monde.
Oui, mais à ce moment-là.
Oui.
Donc on ne critique pas le stade de Reims. Non, on ne critique pas le stade de Reims.
Exactement.
Non, mais c'est quoi ça?
Bah oui, exactement.
Ce raisonnement-là.
Bah oui.
À tout à l'heure, Eric, dans un instant, la deuxième heure de Génération After.
Accessoirement champion d'Europe en 2021.
On va parler de l'équipe de France, bien sûr. L'avis de Delton, Désiré Doué doit être quatrième offensif en équipe de France. Et puis le Maroc au programme, avec Younes Belhanda qui va arriver. But des Pays-Bas face à l'Algérie. Validé.
Refusé.
À tout de suite pour la deuxième heure de Génération After.
Génération After.
RMC.
Nico, moi j'aime bien Cendrillon et tout. Elle a retrouvé son carrosse. Ok, c'est très bien, mais à un moment donné.
Sa chaussure.
Sa carrosse, sa chaussure. Ouais. Que c'est.
C'est Morel qui a allumé la mèche. Le mec, c'est même pas un Marseillais. Il commence à dire ils ont entrevers de la gorge la finale de la Coupe de la Ligue. Ça fait 2 mois qu'il est là. C'est même pas un fossé. Je prends pour un fossé.
Tout va bien. Officieusement, on a compris qu'il y avait un petit peu de l'huile de friture. Ça se dit, huile de friture?
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Ouais, magnifique, c'est là. Merci, Mathieu Chano.
Ravi
de renouveler le jingle.
Non, mais il fallait que je commence.
Max est là ce soir. Elton Mokolo est là également. Deuxième heure, Génération After. L'entrée sur scène de Younes Belhanda. Salut, Younes.
Salut, l'équipe. J'espère que vous allez bien.
Bah, ça va, et toi? T'es en forme? T'es chaud? Younes.
Tout va bien. En forme,
T'es prêt pour la Coupe du Monde, là? T'es fit? T'es bien?
Je suis plus que fit, moi. Je suis prêt à jouer.
T'es prêt à jouer aussi également. Bon, on va parler du Maroc avec toi, tout à l'heure. Je sais pas si tu as vu le match contre Madagascar hier.
Ouais, 4-0. Ouais.
Alors, ça n'a pas une valeur forcément suffisante pour qu'on juge cette sélection, en tout cas, à quelques jours du mondial. Mais quand même, on va en parler les choix de Mohamed Wahbi, le nouveau sélectionneur du Maroc. D'abord, l'équipe de France. On en parle avec toi, avec Elton et Maxime. Et demain soir, la Côte d'Ivoire face aux Bleus, c'est au stade de la Beaujoire à Nantes. On sera bien sûr sur RMC en intégralité. Match coup d'envoi à 21h10, prise antenne des 20h en direct de Nantes. Alors, la composition probable que nous envoie notre cellule équipe de France, Arthur Perrault, Valentin Jamin. Écoutez bien, c'est intéressant, c'est important parce qu'il y a un défi quand même demain face aux Ivoiriens. Demers Faye, Mac Maignan dans le but, Koundé, Konaté qui remplace Saliba. Trop juste, revenu hier seulement avec La Fontaine, gêné au dos, même si les nouvelles sont rassurantes. Konaté associé à Upamecano, Théo Hernandez à gauche, Tchouaméni, Rabiot. Devant, donc, on maintient 4 offensifs. Olise à droite, Cherki dans l'axe, Marcus Thuram à gauche, Kylian Mbappé devant. Voilà la composition probable de l'équipe de France demain soir. Déjà, une réaction, les amis, là-dessus. Première information, c'est que Deschamps, la suite dans les idées, il maintient son système. Il a les éléments offensifs, oui. Il en profite, il les aligne.
Je pense que c'est clair. Les 4 offensifs, c'est sûrement ce qu'on va voir sur le premier match de cette Coupe du Monde. Très surprenant de la part de Didier Deschamps, mais ça va fonctionner.
Il n'y a pas de Dembélé titulaire, attention.
Je te parle pas des noms, bien évidemment. Mais c'est vrai que moi, avec un Didier Deschamps pragmatique qui nous a quand même pas fait rêver depuis toutes ces années en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Je suis très surpris de le voir commencer cette compétition de cette manière. On verra. Peut-être qu'on aura une surprise.
Enfin, surprise, ça fait deux ans qu'il travaille sur ça, quoi.
Ouais, mais tu connais, Elton. Ah bah, on sait très bien qu'entre les matchs amicaux et le début de la compétition, je m'attendais peut-être à voir Didier Deschamps changer un petit peu de tactique. Voilà, c'est mon avis. Si on commence comme ça, je serais très heureux. Quand tu vois le matos que t'as, Dembélé, Mbappé, Olysée, j'en passe. Bien évidemment qu'il faut utiliser cette, des forces que t'as en présence. Maintenant, je serais pas surpris, je l'ai dit, et j'attends de voir, et je veux pas être pessimiste du tout. Je souhaite vraiment que l'équipe de France aille le plus loin possible. Attendons de voir ce que ça va donner sur le premier match contre le Sénégal, qui est quand même un match très très compliqué. Je serais pas étonné de voir Didier Deschamps peut-être revoir ça.
Déjà,
je te le dis,
dès la première journée.
Alors, pas la première journée, mais peut-être la seconde, et de passer peut-être avec trois milieux plutôt que cette attaque avec quatre attaques. On verra. Mais en tout cas, pour la beauté du foot, on est tous contents, non ?
Qu'est-ce que t'en penses, Younes, toi, ton avis là-dessus, sur ce changement de logiciel Deschamps, qui est pas tout nouveau, mais là, il s'adapte aussi aux qualités de son effectif, quoi. Ouais.
Bien sûr, et il s'adapte à ce qu'il a et surtout à la demande des supporters.
Ils ont demandé. Ah, tu crois qu'il est sensible à ça, tu crois, pour sa dernière et tout?
Bon, je pense pas. Non, mais après, il a les joueurs pour jouer dans ce système-là. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, quand les matchs seront un peu plus relevés, pour moi, ce serait mieux qu'il joue en 4-3-3 avec un milieu plus.
Ah oui, quand même.
Oui, moi, je mettrais un Kanté, Koné, Tchouaméni ou Rabiot. Franchement, pour sécuriser un peu plus ta défense, et t'as de quoi faire offensivement. T'as des joueurs comme Rabiot qui savent se projeter, qui peuvent faire sorte de quatrième attaquant. Donc, il y a une panoplie de choix tactiques et de joueurs dans ce vivier équipe de France où t'as de quoi faire. En 4-2-3-1, 4-3-3, il a les joueurs pour je pense qu'on va se régaler.
Bon, alors justement, c'est l'objet de l'avis de Delton ce soir. Toi, tu pars du principe que ce sera 4 devant. Et s'il y a un quatrième offensif, ça doit être pas Ryan Cherki, mais Désiré Doué, Jingle Elton.
On parlait des joueurs qui étaient non seulement des joueurs majeurs dans leur grand club, automatiquement, ça avait une influence sur l'équipe de France. On a besoin de s'identifier à des zéros.
Tout se passe bien, cette saison.
Magnifique celle-là aussi, j'ai oublié.
Juste petit aparté, j'aurais jamais cru voir ça, mais en 2026, que ce soit Maxime, que ce soit Younes, ils sont plus conservateurs que Didier Deschamps.
Ben oui.
Ah ouais, comme quoi.
En plus, Younes qui demandait à Patrick Gragui de prendre plus de risques avec le Maroc.
Ben non, parce qu'on a été joueurs.
Là, dès qu'il parle en français,
là, c'est oula.
Younes, on recule quoi.
Oula, attention, pas qu'il
y a deux logiciels, Younes aussi.
Non, mais au contraire, il y a une manière de sécuriser où tu as un milieu qui est assez dense, mais qui peut être aussi un pressing haut.
Moi, j'ai un peu peur du déséquilibre, en fait, avec cette compo.
C'est pour ça qu'avec un 4-3-3, t'auras moins de déséquilibre qu'avec un 4-2-3-1 avec les 4 offensives qu'on connaît.
Bah, pour le coup, c'est moi qui les ai relancés. Mais non, mais pourquoi c'était mon avis tranché? Parce que, à partir du moment où l'équipe de France, depuis 2 ans, au sortir de l'Euro 2024, où t'avais été justement très décevant sur le volet offensif, je rappelle seulement un but marqué dans le jeu avec Randall Kolo Muani, t'as été dans un laboratoire avec notamment cette idée d'avoir 4 attaquants, parce que aujourd'hui, de manière pragmatique, c'est une équipe qui se construit par rapport à son attaque plus que par sa défense, parce que tu as des forces offensives qui ont grandi, qui sont devenues plus matures, qui en club ont des résultats extraordinaires, notamment avec le PSG. Et c'est pour ça que avec le rassemblement au mois de mars, cette victoire aboutie contre le Brésil, cette victoire contre la Colombie, on avait vu notamment l'avènement d'Hugo Ekitike sur le côté gauche. Hugo Ekitike ne sera pas présent, ce qui redistribue les cartes, et notamment sur ce rôle de quatrième offensif. Moi, j'ai envie de le voir incarné par Désiré Doué. Pourquoi? Parce que on a une équipe de France qui est plus dans des rôles plutôt que dans des positions. Ousmane Dembélé l'avait dit du côté de Roten, sans flamme, en expliquant que voilà, il y avait beaucoup de liberté accordée et qu'il y avait une forme d'asymétrie. Manière de dire que Ousmane Dembélé rentre à l'intérieur du jeu, ce qui me laisse penser que notamment du côté gauche, va y avoir un rôle différent qui va être attribué sur ce fameux côté. Et moi, je me dis que Désiré Doué, par rapport à ce qui est un élément très important dans l'équipe de France de Didier Deschamps, sa discipline tactique, il peut incarner notamment ce rôle hybride, c'est-à-dire un joueur qui peut certes jouer sur le côté gauche, mais qui peut aussi à un moment donné rentrer dans l'axe et notamment apporter une plus-value, accompagner notamment un Kylian Mbappé et être un joueur qui peut être déterminant. On l'a déjà vu sur la phase éliminatoire de Ligue des Champions. On l'a vu aussi notamment sur le match contre la Colombie où il a été décisif dans sa capacité à marquer de près. Et moi, je me dis que c'est une solution qui est toute trouvée parce que voilà, il réunit beaucoup de qualités, c'est-à-dire flexibilité tactique, capacité à impacter dans les grands matchs et talent, bien évidemment. Donc c'est pour ça que pour moi, sur ce rôle de quatrième offensif qui reste très ouvert, parce que va y avoir le match contre la Côte d'Ivoire jeudi, va y avoir le match contre l'Irlande du Nord, et puis globalement il y aura les dix journées de préparation avant le premier round contre le Sénégal. Je me dis quand même que Désiré Doué, même s'il a besoin un peu de repos parce qu'il vient de 120 minutes de finale de Ligue des Champions et une source de tir au but, pour moi c'est l'homme qui pourrait faire l'affaire.
Êtes-vous d'accord avec Elton, 32 16 ouvert, Max pour réagir tout de suite. C'est lui quatrième, Désiré Doué.
Bah tout est dit après une masterclass d'Elton.
Ah ouais, carrément. Tout
est bien dit.
Non, parce que Nico, ouais. Nico.
Non, mais je suis d'accord avec toi pour toutes les raisons que tu as donné. Déjà c'est un joueur qui court énormément. Je pense que sur la finale, alors évidemment il y a le temps réglementaire aussi.
C'est 15 km.
Mais 15 km, c'est exceptionnel pour un offensif et Younes va sûrement pas me contredire. En règle générale, c'est difficile de trouver des joueurs offensifs qui courent autant. Donc, c'est, par rapport à ça, j'ai envie de le mettre en avant. Évidemment, il est aussi très, très important. On l'a vu décisif dans les grands matchs, notamment son
équipe de France pour l'instant. De pas beaucoup de référence.
En tout cas, il est en mesure de pouvoir faire changer les matchs par rapport à sa qualité aussi. Puis surtout, je parlais justement du réajustement tactique. Désiré Doué, c'est un joueur qui peut même jouer presque numéro 8. Donc, en fait, je trouve que dans le schéma tactique de Deschamps, je suis entièrement d'accord avec Elton. Ça pourrait être le quatrième offensif de cette équipe de France.
Younes, t'es d'accord ou pas?
Ouais, surtout dans l'équilibre de l'équipe où tu sais que t'as un Kylian Mbappé qui court un peu moins que les trois autres, un Désiré Doué avec un Olise qui court aussi pas mal et Dembélé qu'on a vu au PSG qui fait les efforts. Je pense que ça va être le quatrième offensif. Il y a un Cherki qui peut aussi venir se greffer, mais pour l'équilibre de l'équipe défensivement, Doué fait plus les efforts qu'un Cherki.
Ouais. Ce qui est bien quand on parle de Désiré Doué, c'est que suivant les zones dans le terrain, il est capable d'interpréter de la meilleure des manières, que ce soit en tant qu'attaquant axial, que ce soit sur les côtés, en tant que milieu de terrain, parce que il fait ce que demande le jeu. Et ça, pour moi, c'est un argument qui est très important et qui validerait sa candidature en tant que titulaire.
Ou alors tu pousses le raisonnement un peu plus loin et Dembélé qui se revendique non pas numéro 9, mais je sais que ça, c'est pas une position qui lui est plairait.
Il préférerait jouer numéro 9,
il l'a dit. Ouais. Un Mbappé qui pourrait passer à gauche et donc, par conséquent, un Olisée qui passerait à droite, eh bien, il faudrait un poste de numéro 10. Et c'est vrai que Doué, il est un peu moins à l'aise quand même dans l'axe de la défense, de l'attaque. Et donc ça voudrait dire que Cherki rentrerait dans ce squatuor. Je sais pas, mais c'est vrai que, en tout cas, tous les signaux qui sont envoyés par Didier Deschamps nous prouvent qu'à mon avis, Désiré Doué va commencer la compétition titulaire sur le premier match de la Coupe du Monde.
Exactement. Toi, Younes, un Rayan Cherki, pour l'instant, ça peut être un impact player plutôt, un gars qui rentre dans les 20 dernières plutôt qu'au démarrage.
Oui, non, il peut démarrer, mais moi je pense Didier Deschamps entraîneur sur l'équilibre de l'équipe. Je pense pas qu'il associera Cherki et Mbappé, parce qu'il va falloir avoir falloir un équilibre si tu veux vraiment faire jouer les quatre offensifs. Il va falloir un équilibre et surtout avec des joueurs qui courent, qui savent défendre, qui défendent, qui aiment défendre, qui font les efforts. Doué et Olise, je pense qu'ils sont devant Cherki.
Moi je suis d'accord parce qu'aujourd'hui un Cherki,
vas-y Younes.
Offensivement les 5 se valent hein. C'est que ce soit la qualité technique, sur la finition, sur la dernière passe. Il y a pas de débat sur ça techniquement,
tu mettrais Cherki au niveau des 4 autres.
Bon, ouais, mais c'est déjà techniquement largement même au-dessus de certains. Donc
au niveau de l'équipe, je parle en règle générale évidemment.
Sur le joueur,
énormément de qualité hein.
Mais surtout, je te parle sur la dernière passe et tout,
par rapport au statut de l'équipe de France,
pas sur le statut, mais je te dis sur le moment présent, sur la dernière passe, sur la vision de jeu, il est au niveau des 4.
Pas de doute, oui.
Si c'est peut-être un peu meilleur que, tu vas me dire Mbappé sur la vision de jeu, il sera meilleur que lui. Mbappé dans son style à lui, profondeur, finition, il sera meilleur que Cherki. Mais moi, je te parle plus sur l'équilibre, sur l'aspect Didier Deschamps. Il verra plus un équilibre avec Doué, Olise, Dembélé et Mbappé. Je pense qu'il y aura un meilleur équilibre. Après, peut-être que je peux me tromper, peut-être que Cherki peut faire les efforts et tout.
Et puis,
mais moi, je vois plus Doué quatrième.
Et puis, on sait très bien qu'en règle générale, l'équipe qui commence la compétition n'est jamais celle qui termine. Hein. Je te parle par rapport aux joueurs.
Tout à fait.
Ce que ça va donner.
Là, ce qui est intéressant dans la compo de demain, c'est qu'on a le 11. Or, les deux Parisiens qui manquent à cause du retour tardif en Ligue des Champions, ça y est, Deschamps nous l'a annoncé finalement, ce 11 qui va débuter le mondial, hein. Ouais. Maignan dans le but évidemment, Koundé on va faire un débat. Théo Hernandez sur les côtés, ça aussi je veux qu'on en débatte ce soir. Upamecano et Konaté qui remplacent Saliba. Je le répète, hein, Tchouaméni, Rabiot, ce sont les deux devant maintenant. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute, les deux devant la défense. Et puis Olysée, Mbappé et Thuram et Cherki seront sûrement remplacés par les Parisiens, en l'occurrence Doué et Dembélé. Les latéraux, c'est intéressant. Koundé, Théo Hernandez, Younes, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as la possibilité d'avoir Zaïre Emery qui a fait une très bonne saison également sur le côté droit au Paris Saint-Germain, qui commence à avoir des références chez le champion d'Europe dans ce rôle-là. Et Théo Hernandez, à gauche, dont la forme est...
Tu mets Zaïre Emery devant Malo Gusto? C'est une question, hein.
On peut en débattre. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
c'est deux profils plutôt c'est Malo Gusto différent, non? Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur.
Bah, allez-y, hein, on peut en débattre. Hein. Est-ce que vous préférez un digne Zaïre Emery sur les côtés qu'un Koundé Théo Hernandez?
C'est pas ce qu'on préfère, mais dans la tête de Deschamps, je pense que Malo Gusto, on est d'accord, messieurs, a un temps d'avance par rapport à Zaïre Emery, non?
Je suis pas persuadé.
Ah ouais?
Je suis pas persuadé parce que aujourd'hui, il y a deux écoles qui s'opposent pour moi, à savoir que Didier Deschamps, il fait le choix du classique, le choix de l'expérience. Moi, j'ai envie de faire le choix de la dynamique club. Des dynamiques clubs en l'occurrence avec Zaïre Emery.
C'est même pas son poste numéro un.
Ouais, mais Zaïre, mais à un moment donné, quand il a été aussi performant en demi-finale de Ligue des Champions, pour moi, il coche les cases. Et moi, par rapport au choix de dynamique club, Lucas Digne sur le côté gauche, par rapport à sa très bonne fin de saison avec Aston Villa. Pour moi, c'est ma paire de latéraux.
Younes.
Après, moi, je pense que Didier Deschamps aime rester dans le classique. Moi, Koundé va rester numéro un. Même si Zaïre Emery peut jouer à ce poste parce qu'il est plus dynamique, il est plus offensif. On l'a vu avec le PSG, il peut rentrer à l'intérieur comme numéro 6.
Et qui fait une meilleure saison que Koundé pour le coup?
Oui, c'est vrai. Mais dans l'esprit, je pense, de Didier Deschamps, il va préférer un classique et pas trop bouger sa défense.
Et puis tu parlais d'un équilibre, justement, avec ce quatuor. C'est peut-être pas mal d'avoir un Koundé qui défend, parce qu'en plus, si tu mets encore un arrière-droit offensif, je pense à Gusto, ça risque de créer vraiment des vrais déséquilibres. Je te rejoins, Elton, par rapport à l'arrière-gauche, par rapport à Lucas Digne, je le mettrai.
Sur le côté gauche, t'as Lucas Digne et Hernandez qui peuvent monter et pouvoir faire le basculement de l'autre côté, à rester à 3 derrière. Je pense que c'est plus une sécurité d'avoir Koundé à droite.
Et au passage, bel élan de sincérité de Koundé en conférence de presse sur sa saison, parce que c'est un euphémisme quand il dit en dessous de ses standards.
Oui, heureusement. On connaît. C'est un homme intelligent. Heureusement qu'il dit pas non, je suis pas d'accord avec vous.
Je peux te garantir qu'il y a des joueurs, ça va. Ils peuvent entre guillemets maquiller leur saison.
Je sais pas, Younes et Max, vous reconnaissiez vous quand vous passiez à côté sur une série de matchs?
Bien sûr,
ça m'est rarement arrivé moi. Vu le niveau que je jouais,
peut-être ton niveau, tu vas rien dire.
Le niveau aussi. MLS, tu jouais avec une jambe.
Younes.
Non, mais tu sais très bien quand t'as fait des bons matchs, quand t'as fait une bonne saison, quand t'as été mauvais. Tu le sais très bien au fond de toi. Et lui, il a eu l'honnêteté de le dire face caméra. Mais ça reste un excellent joueur, un mec fiable à son poste. Donc voilà, il a voulu juste le dire face caméra pour pas avoir d'ambiguïté. Mais pour moi, pour Didier Deschamps aussi, je pense, il va l'aligner.
Oui. Bon, Damien est avec nous, 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Damien.
Bonsoir messieurs.
Bienvenue sur la radio des générations after, Damien. Alors toi, tu veux revenir sur l'avis tranché de Delton, hein, qui veut si ça joue à 4 devant, un Doué pour compléter le quatuor.
Alors je suis du même avis, hein. Si ça joue à 4 devant, pour moi il faut un Doué pour compléter le quatuor, surtout que ça va permuter, ça va beaucoup changer devant. Enfin, on l'a vu, le match contre le Brésil, pour moi, à 4 devant, c'était une révélation en équipe de France parce que ça permutait, ça permettait à Mbappé d'être beaucoup plus libre aussi dans le jeu devant et avoir un Ekitike qui parfois jouait à gauche, parfois faisait point d'appui dans l'axe. Donc, non, pour moi, c'est sûr que si on joue à 4 devant, vu la saison qu'il a fait, Doué, il a clairement sa place et ça peut être le gros point positif de cette équipe. Par contre, si on joue à 3, j'espère que ce sera Mbappé à gauche. Je prie pour, parce que si Mbappé est à gauche et qu'il revient à gauche, on est champion du monde. Moi,
ça n'arrivera pas, Damien.
Ça n'arrivera pas.
Ah, mais pourtant, mon Dieu, dans ce jeu en 4-3-3, Mbappé ne sait pas jouer en pointe et on l'a vu avec le Real Madrid, il gâche complètement le collectif d'une équipe parce qu'il n'a pas les
réflexes. C'est un peu plus nuancé quand même. C'est un peu plus nuancé que c'est Mbappé qui gâche le collectif.
Le problème, c'est qu'en fait, moi, ce que j'aime pas de, dans le jeu de neuf de Mbappé, c'est qu'il redescend trop bas pour récupérer le ballon. Et du coup, il fait pas office de point de fixation sur les défenseurs centraux. Ouais, donc, du coup, les deux ailiers se retrouvent systématiquement en deux contre un, non pas en deux contre un avec un milieu, un défenseur ou un attaquant, un défenseur, avec un défenseur latéral et un défenseur central. Et là, que c'est très compliqué parce qu'en plus de ça, ils peuvent pas faire la différence en un contre un et ils ne peuvent, ils ont pas de point d'appui pour jouer dans la surface de réparation. Donc, pour moi, Mbappé en 9, dans un 4-3-3, ça tue le football. Voilà, je le dis, ça tue le football. Par contre, s'il revient à gauche, on gagne la Coupe du Monde. Parce que Olivier, Mbappé à gauche, avec et qui tue les défenseurs, moi je vous le dis, on gagne la Coupe du Monde.
Bon, bah écoute, Didier, s'il nous écoute.
Oui, mais je pense qu'il nous écoute en plus. Hein,
de toute façon, par rapport au rôle de Mbappé, on le sait, il va falloir que il y ait les joueurs. Et d'ailleurs, Dembélé, encore une fois, dans l'interview à Rotten sans flamme, l'a dit, il va falloir prendre ses responsabilités et compenser le fait que parfois il sera pas dans la surface et attaquer la surface d'une autre manière. Si c'est pas Mbappé, c'est un autre joueur, que ce soit Dembélé, un Désiré Doué ou même un Michael Olise dans sa capacité à apparaître.
En tout cas, l'idée de mettre Mbappé à gauche avec les égaux, alors même si ça a l'air de bien s'entendre à l'équipe de France, c'est absolument impossible. Ça voudrait dire à Mbappé, en gros, c'est un déclassement pour lui. Va à gauche et laisse Ousmane Dembélé numéro 9, même pour le bien de l'équipe de France. À mon avis, c'est un scénario qu'on ne verra absolument pas pendant cette Coupe du Monde. Hein.
Tu le souhaiterais également, toi, Younes, Mbappé, pas en 9, mais sur un côté?
Nous, l'analyse de l'auditeur, elle est très bonne.
Ouais.
C'est vrai que Mbappé, cette année au Real Madrid, où tu vois que Vinicius a le ballon, il fait pas l'appel de l'attaquant. Il se met souvent en retrait, ou il n'attire pas un défenseur central qui le suit, et donc il ne laisse pas le 1 contre 1 avec Vinicius. Plein de fois, on a retrouvé ce schéma-là. Et pour moi aussi, je le préfère à gauche. Je le préfère à gauche, il est plus décisif, il peut être en 1 contre 1 souvent, donc faire la différence. Pour moi, c'est un joueur de côté, c'est pas un attaquant.
Mais Younes, tu as été dans un vestiaire. Et je parlais de déclassement, mais c'est exactement ça.
Tous les grands joueurs, les dribbleurs, les phénomènes, ils sont sur les côtés.
Oui, je te parle.
À part Ronaldo Nazario et Benzema ces dernières années où c'est un style différent.
Mais je suis d'accord avec toi, Younes. Mais il s'est battu pour pouvoir justement avoir cette position de numéro 9. Si demain tu le remets à gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement on préfère Dembélé à lui, mais c'est comme ça.
Messieurs, moi je suis pas d'accord sur une chose avec vous. Il s'est pas battu pour être numéro 9.
Hein. Ah bon?
Mbappé, il est allé numéro 9 parce que à Madrid, on lui a dit, si tu veux venir à Madrid, il faut que tu sois numéro 9.
Ah d'accord, donc il veut pas jouer numéro 9, il préfère être à gauche.
C'est Toulouse Henrique qu'il a intronisé numéro 9 au PSG parce qu'il faisait pas le travail défensif. Oui. C'est ça l'histoire.
Il a accepté de jouer 9.
Par défaut, c'est ça?
À Madrid. Pour moi, un grand coach aujourd'hui, il doit parler à Mbappé, il doit lui dire, écoute, ça fait 3 ans que tu joues 9, ça fait 3 ans que t'es nul. Alors oui, tu marques.
Damien, tu parles avec engouement là.
Vas-y Damien, tu parles avec son cœur Damien, vas-y Damien.
Mais il y a 3 ans, c'était le meilleur joueur du monde, les gars, il n'y avait pas de débat. Aujourd'hui, Mbappé, on le voit, que ce soit au PSG, hein, quand il était en 9 au PSG, je faisais la même réflexion, je me disais, mais c'est pas possible de jouer comme ça, parce qu'il n'a pas les réflexes. Alors, jouer avec deux attaquants, avec Mbappé en 9, pas de problème. Là, il y a un autre attaquant qui est là avec lui, qui peut jouer en point de fixation, etc. Mais alors, si Mbappé joue tout seul en neuf dans un 4-3-3 classique, c'est une catastrophe. Là, quand il y a eu le 4-2-4 avec le 4 en losange un peu devant contre le Brésil, là, j'ai trouvé une révolution tactique un peu de Deschamps, et c'est pour ça que je dis, si Doué il est là, avec Doué, ça va permuter dans tous les sens. Voilà. Et là, dans ce système-là, oui, on peut mettre Mbappé en neuf. Mais alors, dans un 4-3-3 classique, comme il joue Guardiola,
en 4-2-3-1, t'as plus de joueurs offensifs qui peuvent prendre sa place. En fait, il y a des rotations. Ça permet beaucoup. Le numéro 10 peut prendre la place de l'attaquant. Donc, faire un appel de derrière. Donc, tu le vois pas arriver. Tu as l'autre ailier qui peut prendre sa place. Ouais. Donc, en 4-2-3-1, tu verras moins ce truc avec Mbappé où il fait pas les appels dans la profondeur, dans les petits espaces, ou attirer un défenseur central pour libérer l'ailier. C'est vrai que c'est mieux un 4-2-3-1. Ouais. Pour Kylian Mbappé s'il joue numéro 9. Après, en 4-3-3, c'est vrai que je préférerais le voir sur le côté, moi aussi, à gauche.
Avec le ballon, je pense pas que ça soit vraiment le problème, parce que tu l'as dit, finalement, ils débutent chacun une position, mais ça permet tellement que finalement, il n'y a pas trop de problèmes. C'est sans le ballon. Ouais. Avec un Didier Deschamps, on parlait de déséquilibre. Attention, si ça commence à permuter et que ça commence à moins défendre, ça risque d'être compliqué pour l'équipe de France. Alors, vous prenez tous en compte le match contre le Brésil, et bien.
Ouais, toi, t'as pas aimé.
Non, attention. J'ai adoré voir cette équipe de France comme ça. Mais rassurez-moi, c'était pas un grand Brésil, hein. On parlait pas du Brésil 98.
C'était pas du tout un grand Brésil
2002. Donc attention, match amical, mois de mars, voilà.
Oui, mais attends, il faut quand même attirer des conclusions après ce match-là.
Non, mais c'est trop important de quand même le préciser. Attendons de voir.
Bon, Kylian Mbappé est en pleine forme physiquement et psychologiquement, a dit Didier Deschamps aujourd'hui en conférence de presse à Nantes avant le match de demain soir. Damien, merci. Il est devenu le 32-16.
Merci à vous.
Excellent soir à toi. À très vite sur RMC.
T'as été très bon pour expliquer les problèmes de Bappé au Real. Oui. Sauf la fin, t'étais un peu dans l'engouement.
Oui, bah écoute, c'est ça. Hein. C'est le cœur qui parle, Damien. Alors, les directs également, il y a des matchs en cours, bien sûr, importants. De préparation pour des mondialistes, 0-0 entre les Pays-Bas et l'Algérie. J'ai peur pour l'Algérie, hein, quand je vois la domination néerlandaise, on n'est pas surpris, mais quand même, malheureusement, en face, ça réagit pas côté algérien. Pourtant, on a mis l'équipe, hein, Amoura, Gouiri est là, Aouar, Ben Taleb, Zerouki, Lucas Zidane avec son masque impressionnant d'ailleurs, on le savait, sur le visage, Ait Nouri à gauche, et là, notamment, pour l'Algérie, 0-0 entre l'Algérie et les Pays-Bas, 0-0 entre le Danemark et la RDC. Alors, Kelton m'a annoncé une défaite ce soir de la RDC, 2-3-0.
Alors,
on en est là.
Bah oui, tu balances les off. C'est ça les journalistes au 21e siècle. C'est ça les journalistes en 2026. Bravo.
Surveille ce que tu dis avant l'antenne. Parce qu'avant l'antenne, c'est déjà l'antenne. Et puis 0-0 toujours entre le Luxembourg et l'Italie.
Et surtout.
Ça c'est fort. Entre deux mondialistes, deux non-mondialistes.
On a l'habitude, nous, Luxembourg. Voilà. Face à l'Italie, B'. Hein.
Bon. Dans un instant, on va parler du Maroc avec Younes, qui était un petit peu dur pendant la CAN avec les Marocains. Tu vas me dire ce que tu penses de l'évolution de cette sélection avec aux manettes un nouveau sélectionneur, Mohamed Ouattara. On en parle dans un instant avec toi, vous au 32-16, supporters des Lions de l'Atlas. N'hésitez pas à nous rejoindre dans Génération After. A tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Younes Belhanda, avec Maxime Chano et Elton Mokolo. On est ensemble jusqu'à 22h, l'After prend le relais, bien sûr, hein, dans une demi-heure, comme tous les soirs, jusqu'à minuit. Alors, avant qu'on parle de Lyon, hein, et de l'entretien accordé par Mathieu Louis-Jean, le patron du sportif à l'OL, à Jérôme Roten, et quelques infos mercato, je voulais profiter de la présence de Younes, bien sûr, pour parler des Lions de l'Atlas, le Maroc, vainqueur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, même si c'est un débat qui va être mené encore pendant de longues semaines, longs mois, voire années. Le Sénégal, on en parlera bientôt également dans Génération After. Le Maroc hier s'est imposé, hein, face à Madagascar 4-0, doublé de Saïbari, Raïmi a marqué, El Kaabi aussi. Première d'Ayoub Bouadi, qui a beaucoup fait parler, bien sûr, en tant que titulaire. Tiens, Younes, commençons par Ayoub Bouadi, justement. Déjà, sa décision de rejoindre le Maroc. Je t'ai pas entendu là-dessus, à moins que tu l'aies fait chez Jérôme déjà. Ouais.
Et non, pas encore.
Alors, forcément, une aubaine énorme pour le Maroc. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bien sûr, un joueur aussi talentueux, jeune, qui prend sa décision de choisir l'équipe du Maroc, c'est un feu vert qu'il a lancé à beaucoup de joueurs aussi qui jouent en Europe de choisir l'équipe du Maroc très tôt.
T'as raison, il lance un signal aux autres, quoi. C'est énorme.
Bien sûr, c'est que de choisir son pays aussi, c'est aussi quelque chose qui vient du cœur. Et même qu'il soit jeune, il a pris ses responsabilités, il les assume, et c'est bien pour les générations à venir.
C'est vrai qu'on est le cas, il y en a de plus en plus maintenant, d'un très jeune joueur, très talentueux, qui peut ambitionner une sélection dans le pays, son autre pays entre dans lequel il joue, en l'occurrence à Ayoub Bouadi en France. Je pense à Brahim Diaz également avec l'Espagne, notamment, et qui fait le choix très tôt.
Ashraf Hakimi était également
du pays d'origine de ses parents. Ashraf Hakimi également.
Ah oui.
De plus en plus, ça arrive.
Ashraf Hakimi, Hakim Ziyech, il y en a beaucoup.
Tout à fait.
Bon, ils ont fait le choix assez tôt.
Tu as trouvé comment sa première?
J'étais sur RMC, donc j'ai pas vu tout le match. Hein. J'étais chez Jérôme hier, donc j'étais entre Jérôme et le match. Donc j'ai pas regardé spécialement parce que c'était. Mais face à Madagascar, il y aura.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, faut pas s'enflammer. Plus, voilà. Ouais, pas du tout même.
Bon.
On sait les qualités qu'il a, la qualité, l'élégance qu'il a, mais les matchs qui arriveront à la Coupe du Monde, ce sera d'un autre calibre. Sans bien sûr déclasser Madagascar, mais en étant sérieux, c'est les matchs qui arriveront à la Coupe du Monde sera bien plus difficile.
Il y a déjà un bon test dimanche soir contre la Norvège. La Norvège très costaud, qui peut être un gros outsider
la
Coupe du Monde.
La Norvège, je les ai vus contre la Suède, ça rigole pas.
Bien sûr, ils en ont collé quelques-unes à l'Italie notamment.
Tu les as vus en qualif.
On les a vus en qualif également. Dimanche soir à la Norvège. Bon, que peut espérer le Maroc de Mohamed Wahbi, successeur de Walid Regragui? 32-16 pour en parler. Vous êtes nombreux déjà à avoir passé des messages sur le numéro WhatsApp. Évidemment,
bizarre.
Vous pouvez également aller voir le podcast After Coupe du Monde spécial Maroc, qui est le plus téléchargé, regardé, plus de 170 000 fois sur YouTube notamment et en podcast audio. On en a parlé notamment avec Abdeslam Ouadou. Alors. Allez-y, les amis, le Maroc peut-il rééditer ce qu'il a fait en 2022? Je pose la question de manière un peu frontale. Le Maroc a-t-il progressé, évolué depuis 2022? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Younes?
Évolué, je sais pas, mais c'est un changement radical, parce que connaissant Walid, comment il a joué, Wahbi ne fera pas la même chose, parce que c'est quelqu'un qui aime avoir le ballon, qui aime jouer, combiner. C'est pas pour dire que Walid n'est pas joué, mais il avait une structure assez middle block, où il attendait que l'équipe faisait la faute et partait en contre-attaque et avait un bloc qui montait tous ensemble pour avoir moins de risques et avoir moins d'occasions concédées. Donc, et Wahbi, Mohamed Wahbi, je ne pense pas qu'il jouera comme ça. On a vu les matchs qu'il a fait, je crois que c'était contre le Paraguay, où ça a été un jeu assez alléchant. Il aimait attaquer, avoir le ballon. Même s'il y avait des trous dans le milieu, ça ne le gênait pas. Il a continué à jouer tout le match comme ça. Donc, je pense que ça sera un jeu assez open. Et mais ça sera compliqué parce que face à des équipes au mondial qui sont
Brésil, Écosse notamment, et d'autres après. Donc
faut faire attention.
Ce que tu me dis, c'est que je me souviens de nos échanges pendant la CAN. Tu te sens plus proche de ce que fait Wahbi que Regragui. Tu valides beaucoup plus l'approche football de Wahbi en tout cas.
Ah oui, moi même s'il perd au premier tour, mais qu'il a un jeu alléchant, moi franchement je serais content. Bien sûr, j'aimerais qu'ils aillent loin, qu'ils se fassent un parcours à la Walid Regragui, mais avec un jeu alléchant où je prends du plaisir et quand je les vois, je kiffe. Et que s'ils perdent sur un 1-0 parce qu'ils ont pris un contre ou un truc, ça me fera rien parce que j'aurais pris du plaisir sur le terrain.
Elton.
De toute façon, c'est pour moi du changement dans la continuité, changement par rapport au style du nouveau sélectionneur et continuité parce que tu peux aussi t'appuyer sur un groupe qui est devenu compétitif par rapport à tout ce que tu as pu faire entre la Coupe du Monde et ta dernière Coupe d'Afrique des Nations
qui a pris
à la maison.
Confiance aussi.
Et donc aujourd'hui, pour moi, le juge de paix, ce sera le match contre le Brésil qui devra valider notamment ce fameux changement en termes de style, notamment sur ta capacité à être protagoniste face au Brésil et d'assumer notamment le fait que t'es une équipe qui réfléchit davantage avec ballon plutôt que sans ballon. Et en termes d'objectifs, ta première étape.
Tu visais quoi?
Ta première étape, c'est de terminer devant le Brésil. Clairement.
Ah oui.
Bah oui, ta première étape, ça doit être de terminer devant le Brésil. Le Brésil, on était ensemble, on l'a évoqué il y a quelques semaines, juste après le match contre l'équipe de France, qui a des doutes, qui a des notamment sur sa capacité à être compétitif le jour J, qui a pas encore reconstruit son.
Ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc est arrivé au niveau du Brésil. Sur le plan international.
Aujourd'hui, le Maroc doit ambitionner de terminer devant le Brésil cette phase de poule. Oui. T'as une fenêtre de tir qui est très intéressante.
Ce qu'on dit là, c'est qu'il y a énorme l'évolution du football marocain.
Bien sûr, aujourd'hui, ils ont toujours eu un statut, mais là, avec leur parcours à la CAN, je pense qu'aujourd'hui, ils arrivent, alors non pas en outsider, mais enfin, je veux dire, ils ont quand même des arguments qui n'étaient pas forcément le cas avant le début de la CAN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils doivent assumer un petit peu leur titre de champion d'Afrique. Ça, il y a une
constante. Oui, bah après, évidemment, les finalistes de la mondiale avant la CAN.
Mais
surtout avec l'effectif qu'on
c'est
a.
C'est ça.
Franchement, il est très plaisant. Il y a beaucoup de joueurs de qualité, que ce soit défensivement, offensivement. On manquera peut-être d'un attaquant d'expérience. On a Ayoub El-Kaabi. Mais j'aurais aimé avoir un Igaman devant. Ouais. Il y a Saïbari qui peut jouer
l'option
aussi.
Saïbari devant,
l'a vu hier.
Il a été très bon.
En numéro 1,
oui, il a été très bon.
Tu préfères ça ou pas, toi, Younes? Saïbari devant?
Je préférais un Saïbari devant et El-Kaabi qui vient peut-être au fur et à mesure des matchs à rentrer comme super sub. Mais c'est vrai qu'un Igaman m'aurait fait plaisir d'avoir devant parce qu'on a des joueurs assez complets sur les côtés. Au milieu de terrain, on a un milieu de terrain de qualité. Aïnaoui, Al-Kanous. Boadi, Amrabat qui est plus défensif. On a c'est un milieu complet et défensivement avec si Aguerre qui revient à son meilleur niveau et qui n'a pas tout de pépin physique. Ouais. Sur les côtés, on a Mazraoui, Hakimi qui sont le top mondial.
Et puis
on a pas à rougir face au Brésil.
Devant saison équipe.
Ah ouais, non, mais là, logiquement, sincèrement, quand t'égrènes les noms aujourd'hui, ceux du Brésil, tu dis que, t'as plus rien à envier à Rougirao, qui a reculé, régressé, et un Maroc qui a fait un bon énorme.
Nico, on est ensemble au Maroc, on a écouté notamment le discours décomplexé de Regragui, et globalement, tu sors d'un cycle où il y a quand même eu de très bonnes choses. En fait, t'as pas fait tout ce cycle pour arriver face au Brésil et avoir un discours modeste en te disant,
non, mais c'est pas le cas.
Non, comment tu te positionnes, Elton, tu le sais bien.
Non, mais il y a un juste milieu.
D'accord avec
il y a,
toi,
y a juste milieu, bien toi. Évidemment. Bon, moi, en fait, pour moi, l'histoire du Maroc, c'est l'élève qui, pendant 4 ans, a plus ou moins très bien travaillé et qui va arriver
avec le jour nouveau sélectionneur,
et qui va arriver le jour de l'examen face au Brésil. On n'a pas à vous craindre.
Bien sûr. C'est deux équipes, deux équipes nationales qui sont sur des pentes complètement différentes. Le Maroc est sur une pente ascendante alors que le Brésil actuellement est un peu plus descendante. Moi, j'ai re-regardé le match contre Madagascar. Alors, je sais pas si on peut en tirer des leçons. Hein. Younes l'a très justement dit. Mais j'ai trouvé une équipe entreprenante, vraiment. Portée vers l'avant, agressif. Vraiment. Et puis, j'ai envie de remettre aussi un petit peu en avant parce qu'il y a l'entrée de Brahim Diaz qui a été ovationnée. J'ai trouvé ça très beau, honnêtement. Quoi, toute la ferveur populaire autour de joueurs, malgré ce qui s'est passé en finale de Cannes.
Tout à fait.
C'est vrai qu'individuellement, c'est une équipe qui est armée pour aller loin.
Tiens, Riyad est avec nous, 32-16 supporters des Lions de l'Atlas. Salut Riyad.
Salut à tous.
Bienvenue dans Génération After Riyad sur RMC. Je pose la question, c'est une question que beaucoup poseront juste avant la Coupe du Monde. Est-ce que tu rêves d'un deuxième 2022, toi, voire plus encore?
En rêver, oui.
Est-ce que tu penses qu'il est possible, en tout cas?
Franchement, dire que c'est possible et que c'est quelque chose qui va arriver parce qu'on a un bon effectif, etc., je pense que ce serait présomptueux. Il y a très peu d'équipes qui arrivent dans le dernier carré deux fois de suite. Il y a eu la Croatie et la France sur les deux dernières Coupes du Monde, certes. Mais nous, dans notre cas de figure, je pense qu'on est sur une...
On a perdu Riyad, qui va revenir dans un instant. Supporter marocain, tiens, ça réagit également sur le chat, la chaîne YouTube. T'as Willem qui nous dit, attendez les gars, le Brésil est largement au-dessus, Vinicius Rafinha c'est large au-dessus en termes de joueurs offensifs, Marquinhos Gabriel c'est très au-dessus des défenseurs marocains. Attention quand même à ne pas surévaluer le Maroc par rapport au Brésil.
Attention, on parle d'un Brésil.
On parle d'un collectif là,
genre. Pour moi, c'est le collectif qui prévaut, notamment sur une Coupe du Monde. Et le Brésil est sur un cycle qui est compliqué, ou plutôt, ils viennent de lancer un cycle avec Carlo Ancelotti. C'est une équipe qui se cherche. Donc moi, je veux dire que tu mettes en avant des noms offensifs qui doivent absolus avec le Brésil. Pour l'instant, ça monte pas grand-chose. Je veux dire, Rafinha a été contesté, Vinicius a été critiqué notamment sur la dernière Copa América. Ils arrivent pas avec des garanties.
Tout à fait. On va accueillir Riyad est là ou pas? Ça marche, Riyad? Tu es là, Riyad?
Vous me recevez?
Ouais, tu peux y aller. C'est bon. Je laisse finir.
Ça marche. Oui, ce que je disais, c'était que pour moi, ce serait un peu présomptueux de dire que voilà, deux demi-finales de suite, c'est quelque chose qui est envisageable sous prétexte qu'on a fait une bonne première Coupe du Monde en 2022. L'effectif, il est quand même différent. L'ossature, elle est complètement différente, notamment la colonne vertébrale de l'équipe. La défense aujourd'hui, la défense centrale, elle est décimée. On a Diop qui est arrivé dans l'effectif, qui va apporter de la puissance physique. À Gerd, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un point sur lequel il ne faut quand même pas, le minimiser. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un nouveau coach avec des assistants qui sont très intéressants, Sacramento, Haji, qui vont apporter aussi une nouvelle vision.
Sacramento, c'est un adjoint de Gaggi et Mourinho.
Exactement. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que bien sûr, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours et c'est très très important, mais pour le Maroc le gros événement c'est la Coupe du Monde en 2030 et je pense que dans la stratégie du pays c'est aussi de construire l'équipe qui va arriver à 2030 à maturité, et j'enlève pas tous les objectifs qu'on doit avoir sur cette Coupe du Monde là le potentiel qu'on a maintenant. Quand j'entends Elton dire qu'on doit passer devant le Brésil et que ce serait normal, moi, je veux
bien. Non, j'ai pas dit normal. J'ai pas dit, mais aujourd'hui,
en tout cas, tu dois afficher ton ambition.
Ça doit être un objectif. Ouais. Mais demain, je te pose une question, Riyad. Demain, tu bats le Brésil. Pour toi, c'est un exploit?
Bah oui, ça reste un exploit quand même. Faut garder les pieds sur terre. Quand tu dis qu'on a bien travaillé pendant 4 ans, oui et non. Hein, la CAN juste après la Coupe du Monde, on se fait sortir dès le premier match de phase éliminatoire. Donc faut savoir raison garder. On a un bel effectif, on a beaucoup de jeunes. Je pense qu'on a un bon coach. Maintenant, la Coupe du Monde, ça reste la Coupe du Monde. On a fait la surprise en 2022. Je pense que les équipes, elles savent à quoi s'attendre. Ce qui veut dire qu'il faut aussi pouvoir produire beaucoup plus de jeux. On pourra pas attendre comme on l'a fait en 2022 et puis partir en contre avec des joueurs exceptionnels, les Bouffal, les Ziyech qu'on a plus. On a d'autres types de joueurs, mais il va falloir être beaucoup plus, je dirais, pragmatique, conquérant et imposer un style. Et c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est de confirmer.
C'est toujours le plus dur. Ouais.
Confirmer dans un style peut-être différent, plus protagoniste. C'est tout l'enjeu maintenant du Maroc. Hein. C'était l'enjeu de la dernière CAN justement, quoi.
Si je peux me permettre, pour moi, honnêtement, si on arrive au quart de finale.
C'est déjà réussi, mais bien sûr.
C'est plus que réussi,
évidemment, ce serait magnifique. Je rappelle que le Maroc a battu le Brésil, hein, c'était il y a un an.
Un peu plus qu'un an, je pense. Mais
c'était en mars.
Après la Coupe du Monde.
Non, oui, c'est vieux, oh là là, c'était à Tanger.
C'est juste à 3 ans, en fait.
C'est à 3 ans et demi.
Ouais, voilà. C'est exactement ça, ouais.
Ounaï qui se blesse après ce match, ouais.
Ounaï qui se blesse.
Ouais, qui se blesse, ouais.
Après ce match, les buteurs, vous avez Bouffal, Sabiri.
Ouais, voilà. Déjà.
Merci, Riyad.
Sabiri.
Merci, Riyad, d'être venu au 32-16.
Merci à vous.
Bonne Coupe du Monde. Tu nous rappelles pendant la Coupe du Monde,
ouais,
il y a aucun souci.
Ça marche, pas de souci, avec plaisir.
Pour débriefer tout ça, toujours de très grande qualité.
On reviendra vers toi, Riyad, si ça termine
comme pendant la CAN. Tout à fait. Mais il sera plus heureux, t'inquiète pas. Il sera pas vexé. Tu as eu raison, mon cher.
Tu n'oublieras pas de te le rappeler.
Il n'y a aucun problème. les matchs ne prépa, l'évolution des scores, bien sûr. Toujours 0-0 entre les Pays-Bas et l'Algérie. Même si l'Algérie est dominée, les Pays-Bas ne marquent toujours pas. Et toujours 1-0. Un partout désormais entre Pologne et Nigeria, qui ne sont pas mondialistes d'ailleurs, et 0-0 donc, je l'ai dit, entre Pologne et Pays-Bas et Algérie. On va dans un instant la suite, on va parler de Lyon, l'Olympique lyonnais, puisque Mathieu Lujan était l'invité de Jérôme Breton tout à l'heure. Il a parlé Mercato, Corentin Tolisso, Paulo Fonseca, Hendrick, justement le Brésilien qui sera à la Coupe du Monde. Reste avec nous, Génération After, avec Younes Belhanda, Elton Mokolo et Maxime Chano, RMC, 21h43.
RMC jusqu'à 22h, Génération After, Nicolas Jamain,
Elton Mokolo, Maxime Chano, Younes Belhanda, les 10 dernières minutes de Génération After sur RMC. Alors le direct, c'est le tennis, c'est Roland Garros, également Eric Salion, le quart de finale, Berrettini, Arnaldi, où en est-on?
1h15 de jeu et le premier set n'est toujours pas achevé, wow. C'est-à-dire que les deux Italiens se livrent une sacrée baston. Il y a 6-5 pour Arnaldi, mais Berrettini est au service et il va peut-être faire 6... Non, pas 6 partout. Égalité, nouvelle égalité. Donc c'est un match ultra ultra serré. Je rappelle que le vainqueur affrontera vendredi après-midi Flavio Cobolli.
Tout à l'heure, Eric. Alors Lyon, l'Olympique Lyonnais, Mathieu Louis Jean, patron du sportif, en réussite à Lyon, hein, qui a fait que des bons choix quasiment depuis qu'il est arrivé. Bravo. Lyon 4e de Ligue 1, qui jouera un tour préliminaire début août, 4 ou 5 et retour 11 ou 12, avant un barrage éventuel en cas de qualification pour la phase de et ensuite pour la phase de en espérant toucher la phase de Ligue, bien sûr, de la Ligue des Champions. Mathieu Louis Jean, invité de Jérôme Breton. D'abord, question, l'avenir de son entraîneur Paulo Fonseca. Écoutez sa réponse.
Alors on discute avec Paolo, bien sûr. Je pense que Paolo est dans un bon moment. Il est aussi dans un endroit qu'il apprécie, je pense. Et il travaille avec les personnes qui lui correspondent aussi. On est très heureux de la façon que ça se passe avec Paolo. C'est des questions qui vont se poser naturellement dans les prochaines semaines. Mais il n'y a pas de pression. On n'essaie pas de mettre de la pression sur Paolo. On ne veut pas s'en mettre non plus. Mais en tout cas, bien sûr qu'on veut continuer avec Paolo.
Il précise également, c'est pas évident, mais c'est un entraîneur très demandé, attractif. Mais Lyon est un grand club. Alors, je ne sais pas hein, s'il a des offres telles que Pierre Sage en a reçu, mais c'est un homme qui a envie de s'installer à Lyon, en tout cas, Paulo Fonseca.
En tout cas, il a fait du bon travail. Il a fait du bon travail. Et on reparle justement d'un projet lyonnais sur au moins le moyen terme. Mais c'est vrai que de garder l'entraîneur, garder une stabilité avec certains joueurs. Il a parlé aussi de Tolisso, par exemple, mais on parlera de certains cadres. L'Olympique lyonnais veut absolument garder ses cadres. Donc, garder ses cadres, garder son entraîneur, pour moi, c'est la clé du succès pour l'Olympique lyonnais sur les prochaines années.
Avec Lyon, tu as quand même une perspective européenne. Je veux dire, Paulo Fonseca, il a rebondi après l'AC Milan où ça s'était mal terminé au bout de 6 mois. Derrière, il a eu la possibilité de jouer la Ligue Europa. On connaît l'issue finale avec sa défaite à Manchester. Là, il est potentiellement en passe de retrouver la Ligue des Champions. Il faudra passer 2 tours. Pour un entraîneur, en termes de projet, ça reste un projet qui te donne une certaine visibilité. Et ça, il en est bien conscient.
Bon, voilà pour Paulo Fonseca. Comment tu considères, toi, Younes, Paulo Fonseca, comme l'homme du projet lyonnais sur la durée? Absolument, il faut le conserver.
Ah oui, sur le moyen terme, il faut le conserver, surtout avec le travail qu'il a fait depuis le début de la saison où Lyon, vous savez ce qui s'est passé avec Lyon en début de saison, on leur donnait pas cher de leur peau. Hein. Donc avec ce qu'il a fait, la remontada qu'il a fait, arriver à se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Mais aussi, il faut qu'il soit reconnaissant envers le club et l'institution lyonnaise où vous vous rappelez quand il a pris ce carton rouge, il a été écarté pendant longtemps des terrains.
C'est vrai, t'as raison.
Ils ont gardé sa confiance. Il leur a redonné aussi parce qu'il y a eu des résultats. Donc franchement, le couple va bien. Donc il faudrait qu'on reste ensemble.
Et par contre, pour Fonseca, moi j'en avais déjà parlé sur cette émission il y a quelques semaines, notamment par rapport à la troisième place que tu avais abandonnée. Quand tu regardes la réalité de la Ligue 1 2026-2027, moi je veux qu'il y ait un discours plus ambitieux, notamment par rapport au podium. Parce que quand tu regardes notamment la réalité d'un RC Lens, d'un Lille, qui ont perdu leur coach, toi tu t'appuies sur une stabilité. Moi je veux que cette stabilité se matérialise par un podium.
Est-ce que c'est pas trop vite ? Il explique que deux joueurs vont devoir partir cet été.
Ils sont obligés de préserver leur équilibre économique et sans sacrifier la compétitivité. Et c'est ce qu'il y a de plus dur finalement dans un club de foot. Maintenant, qui a des valeurs marchandes et qui peut ramener de l'argent dans les caisses lyonnaises, c'est ça aussi. Mais bon, enfin, tout ça pour revenir moi à cet Olympique lyonnais, je suis pas d'accord avec toi, Elton, par rapport
Comment
à ça. Mais je trouve que c'est peut-être les mettre trop vite sur le devant de la scène. On sait très bien qu'aujourd'hui c'est un équilibre qui est quand même fragile à Lyon, hein, économiquement parlant et aussi sportivement parlant, parce que t'as des joueurs qui sont arrivés en prêt, enfin je pense à Hendrick, t'as des joueurs qui Clinton Mata qui était en surchauffe, ça veut dire qu'il va falloir qu'il soit remplacé, t'as des joueurs qui vont partir peut-être, je pense pas à Souch qui a fait une super saison, enfin je sais pas, aujourd'hui t'as des joueurs qui ont quand même un potentiel revente, on va voir qui va partir. Attention
Maxime, moi dans ces moments-là, tu sais quoi, je suis bête et appliqué. Ouais. Moi j'ai écouté Mathieu Louis-Jean quand il t'explique que en fait ils s'attendent à voir partir deux joueurs, ça veut dire il y aura pas non plus une saigner. Donc tu peux t'appuyer sur une stabilité.
Justement être Corentin Tolisso qui a fait une saison exceptionnelle, c'est pas dit qu'il réitère exactement.
Alors là aussi, il en a parlé, volonté sérieuse de le garder, absolument.
Il parlait d'un cadre du vestiaire sûr et en dehors, enfin sur le terrain.
Mais Tolisso, j'imagine, va partir quand même pour le coup. Il a un très très bon salaire à Lyon.
J'ai pas dit ça.
Il a plus 26 ans non plus.
La saison de Tolisso, elle était exceptionnelle. Est-ce que c'est dit que Tolisso va refaire la même saison en fond numéro 9, en marquant autant de buts, en
stabilisateur excellent? Non, moi je doute pas trop de ça. Moi.
Ah bon, je le souhaite pour Lyon. Et en tout cas, si Lyon veut refaire exactement la saison qu'il a faite, c'est-à-dire une saison quand même réussie, ils vont avoir besoin d'un grand Tolisso. Ce que je veux dire par là, Elton, c'est qu'il faut quand même tempérer nos propos. Ce n'est pas parce que Lyon, en effet, a fait une très belle saison, rappelons-le, qui était quand même en Ligue 2 en début de saison, par rapport à ce qui se passe administrativement. Mais c'est très important qu'aujourd'hui, en effet, la saison est plus que réussie côté lyonnais. Quoique, à un moment donné, c'est vrai qu'avec leur série de 13 ou 14 victoires, je pensais vraiment qu'ils iraient chercher le podium. Je dis quand même, attention, messieurs, ça reste quand même un projet qui est malgré tout précaire parce qu'ils reviennent de loin, c'est tout.
Tolisso, je rappelle qu'il a que 31 ans, Tolisso.
Ouais, c'est un 94.
Il a beaucoup de matchs aussi, quand même, dans sa carrière. Il a souvent été blessé, mais c'est un 94. Alors, on parle à l'instant, on évoquait la situation financière de l'OL, tout semble sous contrôle, dit Mathieu Louis-Jean. Écoutez.
On était la saison dernière, voilà où on en est aujourd'hui. C'est une vraie avancée. J'ai lu les derniers jours que, voilà, au niveau de l'UEFA, on est quand même dans une position beaucoup plus favorable. Mais bien sûr qu'on va devoir vendre. On n'a pas le choix. Je pense pas qu'il y ait une équipe en France, à part le PSG, qui va pas avoir des besoins de vendre. Donc on l'a travaillé, on a une stratégie. On a planifié. On veut maîtriser ce qu'on veut faire. D'accord. On veut garder un vrai équilibre, une stabilité dans l'équipe. Donc, bien sûr que nos meilleurs joueurs, le corps de l'équipe, on va la garder. Maintenant, bien sûr qu'on a des objectifs de vente parce que aussi on a un contrat et un plan avec l'UEFA et la DNCG.
J'ai presque l'impression que ce contrat, cet accord avec la DNCG, permet à Lyon d'avancer sereinement. Tu vois, il y a un cadre de travail, il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire également. Il dit également dans l'interview plus tard, les transferts à 15-20 millions d'euros, c'est fini, il y en aura pas. Donc en fait, Younes, j'ai envie de te dire presque, quand t'as pas trop d'argent, ça te force à avoir des bonnes idées, quoi, d'avoir des idées, être créatif. Et c'est ce que Lyon réussit, Mathieu Léger en l'occurrence, quoi.
Oui, quand t'as pas d'argent, t'es obligé de regarder plus de joueurs avec peut-être moins valeur marchande. Donc aller scruter plus longtemps, avoir de bons scouts. Et à Lyon, ils travaillent très bien. Donc, ils ont déniché pas mal de très bons joueurs à moindre coût. Mais pour moi, l'idée de garder Tolisso, moi, ça me plaît. Il faut qu'il le garde parce qu'il a cet esprit, cet esprit lyonnais. Donc, pour moi, il faut le garder. On sait que Hendrick, je pense qu'ils vont pas pouvoir le garder. et il va retourner.
Alors, Andrip, bien sûr, il est parti, il était en fin de prêt, mais on verra s'il y a qualif Ligue des Champions. Oui. Ça paraît impossible, mais sait-on jamais, en gros.
Ouais, compliqué. Ouais, je pense pas avec la Coupe du Monde.
S'il en met 3, 4 Coupes du Monde, ça va être très compliqué, oui.
Ça va être très compliqué, ouais.
Après, ils ont déjà récupéré le petit Boudache, non, de Nice?
Boudache, oui, il est confié en tout cas la piste Boudache, le Niçois.
Ce serait intelligent, tu vois, d'aller chercher des jeunes pépites en fin de contrat.
Boudache,
quand Lyon t'appelle et te donne l'opportunité de pouvoir jouer, c'est intéressant pour les jeunes joueurs de Ligue 1. C'est des projets qui te permettent justement de te mettre en valeur.
Et ça mettra moins de pression à l'Olympique Lyonnais avec des joueurs moins clinquants pour faire une bonne saison comme ils l'ont fait cette année. Regardez, au début de saison, on ne les attendait pas. Et ils ont fait une saison magnifique avec une quatrième place.
Mais donc, tu sais que finalement, Younes, c'est fou. Il y a un an, c'était la crise, la peur, l'instabilité. Ouais. Aujourd'hui, Lyon est peut-être le club le plus stable avec le PSG dans le top 7-8 français.
Mais comme l'a dit Maxime,
le coach reste en place, la direction sportive est en place.
C'est récent.
Ils sont en train de stabiliser les finances du club. Ouais. Ils ont un groupe. Ils vont perdre 2-3 joueurs peut-être, pas plus. C'est dingue.
La symbiose entre.
Comme quoi, la contrainte, c'est une bonne nouvelle.
Comme quoi, la punition parfois te fait du bien.
Tout à fait.
Les enfants, non mais.
Tu veux dire c'est une leçon de vie.
C'est presque ça, ben c'est vrai. Quand t'as déjà la tête en Ligue 2, je pense que ça leur a aussi remis les idées en place. Mais moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est aussi la symbiose entre l'équipe dirigeante.
Ah oui.
Je trouve très intelligent, c'est intéressant. Ils voient pas trop. Et justement, c'est parce qu'ils sont passés entre guillemets à deux doigts de la Ligue 2. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Lens aussi. Au départ d'Arnaud Pouille, c'est vrai que maintenant, les Lensois, ils font relativement attention. Et c'est vrai que peut-être parfois, ça fait du bien
aujourd'hui, c'est très proche de la directionnelle pour trouver des idées en place. Qui est aligné avec Mathieu Louis-Jean, Paulo Fonseca, et donc ça te permet de mieux travailler et de cibler tes besoins pour attaquer la saison suivante. Et moi, je vais même te dire quelque chose par rapport à cette notion de mercato. On parle de mercato, bien évidemment, à travers le recrutement des joueurs. Et moi, j'aime bien parler de ça. Ton fameux mercato interne. Je veux dire, Alfonso Moreira, il est amené à grandir. Un Malik Fofana qu'on a très peu vu, notamment sur la deuxième partie de saison, s'il est encore là, il est amené encore à grandir parce que ça reste en 2005. T'as un champ de perspectives qui est un champ de possible, qui est quand même très intéressant.
Bon, et Jules l'a dit tout à l'heure rapidement, Mats Bistrup du RB Salzbourg, annoncé proche de Lyon, il confirme qu'on cherche un profil comme le sien au milieu de terrain à Lyon lui aussi. C'est pour être. Tu l'as vu jouer un peu, Salzbourg?
Bistrup, ouais, j'ai très peu vu jouer.
Hein. Très peu vu jouer, d'accord. Tu n'empêches que mater les matchs de Salzbourg non plus.
Non, mais
il mate 25 matchs par semaine.
Non, mais attention, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas regardé.
Tu l'as vu, tu l'as pas regardé, d'accord, très bien.
Arsène Lupin.
Les directs, rapidement, Eric Salio, est-ce que Arnaldi a pris le premier set?
Affirmatif. 7 jeux à 5. Il est en train d'épuiser, je trouve, Matteo Berrettini. C'est vrai que la terre battue lente de ce soir n'avantage pas le bison romain. Donc 7-5, Arnaldi, on débute le deuxième.
Sachez également que l'Italie mène désormais face au Luxembourg. C'est pour toi, Maxime, que j'en parle évidemment.
Ah là là,
Pio Esposito a marqué.
C'est pour ça que tu me sens un peu moins bien.
Vous avez craqué, les gars, à l'heure de jeu. Avant l'heure de jeu, il reste du temps. Et puis,
on a une grande force de résilience au Luxembourg.
Toujours 0-0.
On est souvent mené et on revient rarement.
Une bonne force de résilience financière également. Bon,
fini le match RDC Danemark.
0-0 entre les Pays-Bas et l'Algérie. Et RDC Danemark où c'est terminé. 0-0, score final, voilà. Voilà, t'es mauvaise langue, tu vois. T'annonces une défaite de ta sélection.
Écoute.
Elle fait 0-0.
Faut être pessimiste.
Younes, merci. On te retrouve, bien sûr, aussi pendant la Coupe du Monde. C'est un plaisir de t'avoir ce soir à nos côtés dans Génération After. Je vous rappelle que l'After arrive dans un instant. La suite avec Jean-Louis Tour aux manettes ce soir. Bonne soirée à tous.
Salut à tous.
Génération After.